Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Bonjour, je suis Mathieu Noël. Cette saison, la famille Europe 1 s'agrandit. C'est avec une émotion indicible, que trahit d'ailleurs ma voix probablement chevrotante, que j'accueille à mes côtés cette année l'emblématique animateur de Secrets d'Histoire sur France 2. Élu 57 fois au bas mot, animateur préféré des Français, auteur bientôt à la Pléiade des Pourquoi de l'Histoire, il est aussi le patron, le parrain, le Don Corleone du patrimoine français. Bienvenue à vous, Stéphane Bern.
Non mais merci Mathieu pour cet accueil chaleureux et bienvenue à vous qui nous écoutez chaque après-midi de 16h à 18h. C'est vrai, avec Mathieu, on vous donne rendez-vous pour Historiquement Vôtre.
Se cultiver, sans pour autant se démettre un neurone, l'histoire, la petite, la grande, la moyenne, l'insolite, celle qui nous raconte aussi notre époque et nous permet de mieux la saisir. L'histoire, enfin Stéphane, qui nous aide à mieux nous propulser dans l'avenir. Des effets spéciaux, vous l'entendez, digne des plus grands studios d'animation hollywoodiens.
Et oui, chaque jour, c'est à travers trois personnages que nous allons aborder une thématique. Alors, trois personnages historiques qui auront toujours un point commun, même si parfois il sera dur à trouver. Par exemple, Mathieu, quel est le point commun entre vous, Voltaire et George Clooney ?
La bogossitude.
Non. Là, on vous a menti sur vous-même. Non, le café.
Oui, c'est vrai que Voltaire n'était pas canon non plus.
Oui, enfin, Voltaire buvait, selon les estimations, entre 40 et 50 tasses de café par jour, presque autant que nous pour préparer cette nouvelle émission. Tous les jours, de 16h à 18h, on va vous raconter le destin de trois personnages qui n'ont rien à voir, mais qui ont tant à montrer.
C'est beau ce que vous dites, Stéphane. Ouais, et pour cette première, nous en avions conscience, il fallait frapper un grand coup en attaquant d'emblée avec des personnages très forts, en quelque sorte des stars de l'histoire. Or, quand on parle de stars de l'histoire, à qui pense-t-on immédiatement, Stéphane ?
Akena, la reine des vérandas.
Non, Stéphane,
non.
Ça, c'est quand vous pensez à comment payer votre solde de l'impôt sur l'homme.
Non.
Aujourd'hui, comme dirait le duc de Boulogne. Vous connaissez le duc de Boulogne, Stéphane ?
Bah, évidemment.
Qui ne connaît pas le duc de Boulogne ?
Que des numéros 10 dans ma team.
Que des numéros 10 dans notre team aussi, Stéphane. Wesh gros, aujourd'hui, nous vous parlons des trois numéros 10 qui ont fait l'histoire. Louis X le hutin, Otto Dix, c'est presque un 10, et le...
C'était un pâtre allemand, bien
sûr. C'est exactement un pâtre allemand qui aimait la guerre, mais aussi le sexe.
Oui. C'est une des choses que je préfère avec l'infanterie. Et les pieds paquets.
Un sacré personnage. Et bien sûr, pour finir, le plus célèbre numéro 10 contemporain, Zinedine Zidane. Vous aimez le foot, Stéphane ? Est-ce que vous aimez taquiner le cuir ?
Bah, évidemment.
Pardon, c'est un autre cuir que vous taquinez. Mais...
Non. Moi, j'ai le cuir
bien tanné.
Bien tanné. Au programme d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Comme un écho à cette brochette de personnages, une brochette bigarrée de séquences toutes plus gratinées les unes que les autres. Notre historienne, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui nous entraînera dans l'intimité souvent agitée des grandes ce monde.
Oui Stéphane, tant il est vrai que les grandes figures de l'histoire avaient un cœur, mais aussi d'autres organes qu'ils utilisaient sans parcimonie. Napoléon ne disait-il pas à Joséphine ?
D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
Oui, alors là, vous avez visiblement accès à des sources historiographiques inédites. Je ne connaissais pas cette citation.
Je vais vous surprendre.
Oui, au programme également de ces deux heures, mon cher Mathieu, l'enquête de David Castello-Lopez sur les origines d'un objet et quel objet.
Ah.
Aujourd'hui, n'est-ce pas David, nous partirons à la découverte de la première prothèse mammaire de l'histoire.
Mais il l'a apportée en studio.
Exactement, je la ferai passer tout à l'heure.
Mon Dieu. On jouera également à Bern to be Alive. Ce jeu qui vous permettra chaque jour de vérifier si Stéphane Bern s'y connaît vraiment mieux que vous en histoire ou si c'est juste une légende qu'il entretient habilement. Vous êtes prêt à relever le défi, Stéphane ?
J'ai vraiment le choix.
Vous n'avez pas le choix. Sinon, si vous m'aviez dit non, ça aurait été gênant vu qu'on ne peut pas restructurer l'émission maintenant. C'est trop tard. Historiquement Vôtre, c'est parti.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Il est l'étincelle qui va allumer chaque jour la mèche de notre émission, le starter qui va amorcer la pompe du savoir.
Il doit être ravi de nous rejoindre, oui. Surtout après de si poétiques comparaisons, hein, Mathieu. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour.
On va avec vous remonter le temps aux origines d'une pratique, d'un objet ou d'un phénomène, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je vais commencer, si vous voulez bien, en vous parlant d'un talent que j'ai. Moi, j'ai le pouvoir d'expliquer très précisément pourquoi les gens sont moches. Par exemple, moi, j'ai plein de défauts, mais j'en ai un principal, c'est que j'ai un trop grand espace entre mon nez et ma bouche. Voilà, c'est comme ça, c'est moche, et ça me complexe un petit peu. Mathieu et Stéphane, je vois pas pourquoi vous auriez des complexes.
Non, vraiment pas.
Mathieu, vous ressemblez à une sorte de Don Quichotte sexy du 11e arrondissement.
C'est bien vu. Et vous, 10e, et plus précis.
Et vous, Stéphane, vous êtes né sous De Gaulle, mais vous avez une peau de millénial, ce qui est quand même assez énervant.
Non, autant du général, parce que j'ai peur qu'on pense que je suis né sous lui, qui me pose...
C'est très rare d'être né sous De Gaulle.
Le monde était en noir et blanc, en tout cas.
En tout cas, moi, je suis complexé, et donc ça m'a donné envie de m'intéresser aux autres complexes, et en particulier à la taille des seins, qui est peut-être le complexe numéro 1 de l'humanité. D'autant plus que pendant longtemps, il n'y avait rien à faire. Les gens qui avaient des petits seins, ils avaient des petits seins, et puis voilà. Mais aujourd'hui, il y a les seins en silicone. J'en ai apporté un, d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, pour que vous puissiez voir.
Très bel objet.
Je vous le fais passer, là.
Je le touche pour la première fois de ma vie, Stéphane.
Oui. On s'y croit. Généralement, c'est dans des gens. Donc là, c'est assez.
Vous en avez touché d'autres, mais vous ne le saviez pas.
Sans le savoir, j'aurais été dupé. Oui. Oh mon Dieu, je vais les rappeler. Attendez, j'ai les 06.
Chaque année, dans le monde.
Tenez, Stéphane, tâtez-moi ça.
Oui, tâtez avant qu'on.
Ah oui.
C'est remarquable tout de même. Oui, hein. Il est texturé, fait. Celui-là, vous voyez.
Oui. Ouais. Oui, oui.
C'est un modèle
il y a du grain.
Exactement. Ça coûte à peu près 200 €, mais bien sûr, comme on disait tout à l'heure, il faut le savoir-faire pour le mettre
pour
l'introduire dans quelqu'un. Il ne faut pas faire
ça. Sinon, ça fait boule anti-stress.
Chez soi. Chaque année dans le monde, il y a 1 500 000 femmes qui se font refaire les seins. 1 500 000, pour vous donner une idée, c'est 35 fois la population de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà, vous imaginez, Gennevilliers, c'est déjà pas une ville radieuse, hein, même si certains l'appellent la petite Venise du périphérique. Vous imaginez qu'il y a 35 fois plus d'habitants à Gennevilliers. Donc autant vous dire qu'on est dans la promiscuité. Et en plus, tous ces habitants, ce sont des femmes avec des seins en silicone. Voilà. Et là, vous visualisez bien parce que sinon, je vous connais, vous visualisez pas. Alors moi, ce que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y avait zéro personne qui avait des seins en silicone et aujourd'hui, où on peut remplir des villes des Hauts-de-Seine avec. Et pour le savoir, je suis allé à Houston, au Texas.
Attendez, vous êtes allé à Houston, au Texas, avec le budget d'Europe 1 ou pas ? Parce qu'on a un budget quand même qui est un peu serré sur l'émission. Donc
J'y suis allé pour mon plaisir. Et il se trouve
d'accord, ça tombait bien.
Je ne sais pas si vous connaissez Houston.
Non.
Non, c'est
abominable. Rien que d'en parler, là, ça me rend triste. Voyez, c'était... Mais il y a quand même une chose bien à Houston, c'est qu'il y a un vieux monsieur là-bas qui y habite et qui s'appelle Thomas Biggs. Je suis allé l'interviewer et donc vous pouvez entendre sa voix.
My name is Dr. Thomas Biggs and I'm the only surviving member of the team that put in the first silicone gel implant in the world in 1962.
Alors ça c'est de l'anglais. Mathieu, vous êtes un homme lettré. Est-ce que vous avez compris ce que Thomas Biggs a dit ?
Alors, je suis Thomas Biggs et puis je suis le seul survivant de l'équipe qui a placé la première prothèse en silicone en 1962.
Mais c'est exactement ça.
Mais qu'est-ce que les autres, le silicone leur explosait la gueule ?
1962, c'était très longtemps.
Après, évidemment, il y a eu ce qu'on appelle la Silicon Valley.
Exactement, et c'est tout à fait lié. En tout cas, je vous félicite pour votre niveau d'anglais, c'est très très bien.
C'est bluffant. Hein.
Avant les années 60, il y avait quand même eu plein de tentatives pour rendre les seins des gens plus gros, mais en y mettant des trucs qui étaient vraiment pas faits pour être dedans, comme par exemple de l'ivoire, du cartilage de bœuf.
Vous savez que l'ivoire est prohibé.
Mais oui, et surtout pas dans les gens. des éponges et surtout du silicone tout seul injecté directement dans les seins. Et ça marchait vraiment pas très bien. Et en plus, c'était dangereux. Mais là, on est au début des années 60 et c'est le moment où dans les hôpitaux, on a commencé à remplacer les bouteilles en verre qui contenaient le sang pour les transfusions par des poches en plastique. Donc c'était un peu nouveau, ces poches, à ce moment-là. Et là, il y a un collègue de Thomas Biggs à l'hôpital de Houston qui était en train de manipuler une de ces poches et il lui dit « Attends, tu trouves pas qu'on dirait un sein quand même ?» Et Thomas Biggs, il fait « Mais c'est clair ?» Et après, ils ont rigolé tous les deux, parce que c'est comme ça, les chirurgiens, ça fait des blagues de cul juste avant d'opérer des gens qui ont le cancer. Et là, ils se sont dit « Il y a un truc à faire ». Ils ont commandé un prototype d'implant en silicone, et ils ont fait un premier test sur un chien qui s'appelait Esmeralda. Le chien n'est pas mort, et donc là, ils se sont dit « Bah, super, maintenant on va le mettre dans des gens. »
Ah oui, c'est allé très vite. Hein. Il n'y a pas eu la phase 1, phase 2, tout ce qu'on entend aujourd'hui.
Ça a été très rapide. Sauf que là, évidemment, il fallait trouver quelqu'un dans lequel mettre l'implant en silicone. Et c'est Thomas Biggs qui raconte la suite de l'histoire.
On a reçu une dame un jour qui avait des tatouages avec le nom de son petit ami sur les seins. Elle avait rompu avec lui et elle voulait les enlever. On lui a dit « Ok ». Et on lui a demandé en plus « Ça vous dirait d'avoir des seins plus gros ?» Et elle a dit « Ok ».
J'ai fait ma voix de traduction de reportage télé, vous avez vu ?
On voit que vous avez un expérience en télé.
Ouais, c'est pas mal. Alors, quelques mois avant que j'aille le voir, Thomas Biggs, il avait retrouvé Timmy Lindsay, qui était à présent une femme de 85 ans. Il l'a enregistré et il a eu la gentillesse de me donner la bande. Donc, voici la voix de Timmy Lindsay, la première femme de l'histoire du monde à avoir reçu des seins en silicone il y a 58 ans et qui les a toujours aujourd'hui.
All through these years, I've never really even thought about my breasts. They were just there like part of me.
Voilà, c'est une nouvelle fois de l'anglais.
Oui, alors la traduisez parce que.
Et elle dit était... Toutes ces années, je n'ai jamais vraiment pensé à mes seins. Ils étaient juste là. Ils faisaient partie de moi. Alors, ce qui m'a intéressé ensuite, c'est de savoir est-ce que les gens qui se font refaire des trucs, ils sont plus heureux que les autres ? Eh bien, il y a une étude de 2012 qui, en gros, répond oui. En tout cas, chez les gens qui ont de gros complexes et qui se font refaire, eh bien, les gens qui ont des gros complexes et qui se font refaire, ils se déclarent en moyenne plus heureux que ceux qui ne le font pas. Donc, je peux vous dire que dès qu'il y a une opération disponible pour réduire cet espace lamentable que j'ai entre mon nez et ma bouche...
Mais vous avez une excellente moustache entre les deux qui
font. Voilà, ça aide. Et ben, j'y vais direct.
Parfait. Merci beaucoup, David. Stéphane, tout est vrai chez vous ?
Ah bah oui. Je suis dans l'état où on m'a mis au monde.
Enfin, quel état ?
Presque.
Merci beaucoup, David.
Europe 1.
Qui était Louis X ? Pourquoi l'appelait-on le hutin ? Que signifie d'ailleurs le terme hutin ? Je n'en ai foutrement aucune idée. Stéphane Bern, en revanche, lui possède les réponses à toutes ces questions. Pas vrai, Stéphane ?
Ah bah oui, évidemment, Mathieu.
Oui, enfin bon, cherchez quand même sur Wikipédia pour être sûr, pour qu'on soit sûr que ça soit la vérité.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Et oui, vous écoutez Historiquement Vôtre, votre nouveau rendez-vous qui réunit chaque après-midi tous ceux qui font l'histoire des grandes reines aux petits princes. C'est parfait, l'heure du goûter.
C'est parfait. Pour cette première émission, nous avons modestement réuni les meilleurs des animateurs, nous, les meilleurs des chroniqueurs. Il restait à trouver les meilleurs des personnages de l'histoire. Que des numéros 10 dans ma team, vous l'avez compris.
Que des numéros 10 dans ma team.
C'est notre thème du jour. Et Stéphane, pour votre premier grand récit, vous nous racontez le destin d'un numéro 10 qui n'a, à première vue, pas tout d'un winner, Louis X, le hutin. Et non le mutin, quoique.
Historiquement vôtre. Le récit.
Le nom de Louis X ne vous évoque peut-être pas grand-chose.
Rien. tout simplement, mais soyons
rien.
Francs.
Rien. Louis X dit le hutin, ou l'entêté, le querelleur, le turbulent. On le suppose à cause d'un tempérament batailleur dans son enfance. Il est vrai, pas tellement eu le temps de se distinguer à cause de son passage éclair à la tête du royaume de France. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Novembre 1314 à juin 1316 seulement.
Oui, c'est rikiki.
Bon. Et puis surtout, l'histoire a retenu sa supposée faiblesse de caractère.
Stéphane, on avait dit qu'aujourd'hui, on parlait que des meilleurs, des numéros 10. Là, votre Louis X, il n'a de 10 que le chiffre.
Oui, mais il n'a pas eu le temps, vous voyez, d'exercer son pouvoir. Il a fait des choses bien. On va en parler, Mathieu. Il n'est peut-être pas le plus important dans la chronologie des Louis de France, mais son histoire a tout d'un roman. D'ailleurs, Mathieu, si je vous parle des rois maudits, ça vous parle davantage ?
De la vieille série de TF1 avec Philippe Torreton et Gérard Depardieu ?
Mais non, aussi le livre de Maurice Druon.
Ah oui, bien sûr.
D'où on a tiré la fameuse série une première fois en 72, vous savez, avec Jean Pia et son collant moulant. Là.
Le problème, c'est qu'en 72, j'avais moins 10 ans.
Donc vous
n'étiez
vraiment...
pas né.
Vous n'étiez même pas une idée.
Je n'étais même pas une idée.
Ah oui, c'est fou. Ah, mais Jean-Pierre.
Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles-sœurs sont des putains.
Quoi, Jeanne ? Et Blanche aussi ?
Blanche, j'en suis assuré. Pour Jeanne, plus de rouerie, mais pas plus d'innocence.
Ah oui, les rois maudits. En fait, des trois fils de Philippe IV le Bel, Louis X, Philippe V le Long et Charles IV le Bel, parce que c'était pas mal non plus, les héros d'un récit qui a fait le tour du monde. L'auteur de Games of Thrones, lui-même, George R. Martin, avoué...
Comment vous dites George R.R. Martin.
Martin, oui, donc c'est R.R. Mais ça s'entend pas quoi. Il a avoué s'être inspiré des rois maudits pour son épopée romanesque. Oui, il a dit, les rois maudits ont tout, des rois de fer, des reines étranglées. Et justement, il y a un épisode que j'adore dans les rois maudits, c'est le scandale de la tour de Nesle. Je résume pour vous, Mathieu, parce que les princesses de Bourgogne, Marguerite notamment, première épouse de Louis X, et Blanche, épouse de son frère Charles, sont soupçonnées d'adultère. Bon, la première est emprisonnée à Château-Gaillard, c'est en Normandie, où on la retrouve un an après étouffée par une serviette. C'est des choses qui arrivent.
Un bel accident domestique.
Leurs amants supposés, Philippe et Gauthier d'Aunay, deux gentilshommes normands, sont punis par là où ils ont fauté. Coupe les roubignoles. Oui, je sais dans ma bouche.
Oui, dans votre bouche.
Le
mot roubignol résonne étrangement.
On les traîne nus à la queue d'un cheval. Bon, on était raffinés dans les supplices à l'époque. Bon. Mais pardon, je digresse, revenons à nos Normandie.
Mais on sent que vous digressez selon vos goûts personnels, hein, Stéphane.
Non, mais j'aime bien les supplices de l'époque au Moyen-Âge.
Ça n'engage que vous.
Vous n'aviez pas la télé, vous voyez ça occupé.
Il fallait se divertir.
Bah évidemment, bien vous sûr. N'étiez pas encore né. Alors revenons à nos rois maudits. D'ailleurs, pourquoi les a-t-on surnommés les maudits? L'était-il réellement? Il faut savoir que cette histoire de malédiction n'a pas été inventée par Maurice Druon. On retrouve l'évocation de cet anathème dans les textes de chroniqueurs du XIVe et du XVIe siècle. L'une des versions les plus reprises est celle d'une malédiction lancée par le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, à l'encontre de Philippe le Bel, père de Louis X. Vous savez, pape Clément, roi Philippe, d'ici un an, etc., vous serez maudit jusqu'à la 13e génération.
Si jamais ils refont une adaptation, en tout cas, il faut qu'ils pensent à vous.
Non, bah, je suis trop âgé. Alors, dans sa pièce, Les Templiers, le dramaturge François Reynois en livre cette version. « Ô Philippe, ô mon maître, ô mon roi, je te pardonne en vain, ta vie est condamnée au tribunal de Dieu. » Je t'attends dans l'année.
Oh, ça rime.
Ça rime. Ouais. En plus, et puis c'est vrai que Philippe le Bel, il est mort des suites d'une chute de cheval 8 mois plus tard.
Alors, est-ce que vous pensez personnellement, Stéphane, que c'est de la faute de Jacques de Molay, la malédiction, ou du cheval?
Bon, l'histoire a ses secrets, Mathieu, vous le savez. Quoi qu'il en soit, c'est donc le fils aîné, notre principal intéressé, Louis X, qui lui succède le premier à la tête du royaume. Un règne bien court, parce qu'il est mort moins de 2 ans plus tard, à l'âge de 27 ans. Il était jeune et faible, surtout faible face à son oncle. D'abord, Charles de Valois, à qui la mort de Philippe IV le Bel donne l'occasion de revenir en grâce et de réaffirmer son influence sur le pouvoir royal. Et face à la grande nobiliaire, il faut savoir qu'à la fin du règne de son père, Louis hérite d'une situation explosive sur le plan de la politique intérieure. En cause, l'affirmation de la souveraineté royale aux dépens de la suzeraineté, c'est-à-dire les seigneurs faisaient la loi alors que lui voulait imposer le pouvoir royal. Les grands seigneurs du royaume n'apprécient guère certaines des évolutions du règne précédent. Précédent de Philippe le Bel, qui met à mal leur pouvoir et leur bourse.
Oui, alors, parlez plutôt de finances, parce qu'avec, comme vous avez parlé de Roubinel tout à l'heure, ça commence à faire beaucoup.
Oui, il ne faut pas créer
de
confusion. Et plus précisément, les prémices de la fiscalité, de la nouvelle importance des roturiers auprès du pouvoir royal. Donc, la révolte gronde donc. Le jeune Louis veut apaiser les tensions avec la noblesse du royaume. Et plutôt que de briser la résistance, il choisit de négocier. Alors, une série d'ordonnances où il réaffirme certains des privilèges des seigneurs. La stratégie s'avère payante. Le mouvement est vite désamorcé. Mais cet épisode ne fera que renforcer sa réputation de roi pleutre. Enfin, cela dit, il savait faire rentrer l'argent. Il faisait payer les juifs, il faisait payer les serfs en leur donnant ou la liberté.
Il était peut-être malin, tout simplement.
Il était assez malin, d'une certaine manière. Dire qu'il est faible, je sais, vous dites, oui, c'est un pleutre, c'est un faible. Non, c'est pas une lecture légitime de son règne et de son caractère. Est-ce qu'il avait vraiment le choix, Louis X, le hutin? Nous ne le saurons jamais. Voilà. De plus, ses tractations sont plutôt habiles. Il y a une série de chartes provinciales qu'il octroie, qui ne met pas à mal ses droits de roi. Il serait injuste de reléguer son règne au rang de sombre parenthèse. Au même titre que ses prédécesseurs et ses successeurs, eh bien, il a jeté les fondements de ce qu'on appelait la monarchie des Valois, la monarchie française, avec votre copain Louis XIV, qui sera peut-être...
Celui que je connais le mieux.
C'est le seul que vous connaissez, la lignée.
Non, je connais Louis XVI aussi. Quick. Et puis, non, un petit peu Louis XV. Vous verrez, je vous surprendrai. Mais là, ça remonte trop loin pour moi, Louis X, le hutin. Là, vous vraiment vous faites tout découvrir.
Bon, évidemment, le drame, c'est sa mort. Vous savez qu'il est mort dans...
Je me doute que depuis le temps, il a fini par décéder, oui.
Oui, il a fini par décéder. Mais surtout, on dit qu'il a possiblement été assassiné.
Et donc, là, vous allez nous laisser, sans qu'on sache s'il a été assassiné, notre Louis X le hutin. Vous allez faire ça?
Je vais faire ça, c'est dans mon contrat, mais je vais vous le raconter dans un instant.
Ah.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
La précision d'un cours de René Raymond au Collège de France, le suspense de la Casa des Papel, vous écoutez Historiquement Vôtre, où Stéphane Bern continue de nous raconter le destin à la fois tragique, un peu pathétique de Louis X le hutin, dont on ne sait toujours pas si la mort est accidentelle ou si quelqu'un a cherché à le zigouiller. Bon, on m'a dit, tu vas travailler avec Stéphane Bern, c'est carré, c'est précis, et là... Vous nous laissez comme ça sur une incertitude.
Oui, c'est vrai. Mais les circonstances de la mort de Louis X le hutin, Mathieu, sont pour le moins intrigantes. Il meurt brutalement au terme d'une partie de jeu de paume. D'ailleurs, c'est la première référence dans l'histoire de France d'un homme qui joue au jeu de paume.
Il y aura Michel Berger plus tard.
Oui, après, il a eu chaud et après, il s'est désaltéré et il est mort.
Ça, c'est ce que vous voulez ce que vous avez envie de croire. Alors, mais il a peut-être été empoisonné.
A-t-il été empoisonné? Je sais que les auditeurs se posent tous cette question. Eh bien, c'est ce que certains ont supposé. En tout cas, la comtesse Maud Artois, vous savez, dans les Romodis, c'est elle qui est jouée par Hélène Duc. Elle est merveilleuse. Ah, vous n'étiez pas née, c'est vrai.
Toujours pas née.
Mais quand est-ce que vous allez naître?
Alors, la comtesse 1982.
Maud Artois, la belle-mère de son frère Philippe, le fameux Philippe dans le film V le Long. Non, Philippe V le Long.
Ah non, le Long. Mais j'ai cru un instant que le Long était le Bel.
Et donc c'est Maud Artois qui sera accusée de ce crime. Une enquête est enfin menée, des témoins sont auditionnés et deux d'entre eux affirment avoir fourni du poison à l'accusé, une mixture à base de queue de couleuvre et de crapauds séchés.
Là, vous venez de nous donner la recette du poison. Si jamais voilà, quelqu'un nous écoute, attention de ne pas refaire ça, évidemment, chez vous.
Bon, il y a plusieurs recettes, je peux bien vous les donner, Mathieu. Celle-là n'est peut-être pas la meilleure. D'ailleurs, ces accusations d'empoisonnement sont rapidement invalidées. Donc, le mystère reste entier. Notons qu'à travers elle, c'est son gendre, Philippe, le frère cadet, donc, de Louis X le Hutin, que l'on visait sans doute par cette accusation, parce que comme il est le premier frère du roi, il est en lice pour la succession. Et c'est là, Mathieu, toute la problématique des rois maudits et de ce qui va signer la fin des premiers Capétiens. Louis X n'a pas de fils, enfin pas encore en tout cas, parce que sa deuxième épouse, Clémence de Hongrie, qui était la fille de Charles Martel, bon, elle est enceinte quand il meurt en juin 1316. Qui, dès lors, succédera à Louis X le Hutin sur le trône?
Mais qui, Stéphane? Dites-le-nous, bon sang!
Alors, ça peut être sa fille Jeanne, qu'il a eu avec Marguerite, sa première femme, Marguerite de Bourgogne. Celle-là même qui est morte avec une serviette sur la bouche.
Malencontreusement.
Oui, mais sur laquelle pèsent de lourds soupçons d'illégitimité, évidemment, puisqu'elle le trompait.
Mais oui.
Ou bien le futur enfant de Clémence. Mais si c'était encore une fille, dans ce cas, se poserait la question des femmes au pouvoir. Ce serait la première fois qu'un Capétien meurt sans laisser d'héritier mâle.
En fait, vous ne savez pas, Stéphane.
Si, je le sais, mais laissez-moi vous raconter. Il faut bien savoir qu'à l'époque, les règles successorales ne sont pas encore établies. Le principe de masculinité est appliqué, mais il n'y a aucune règle écrite ne dit qu'une femme ne peut pas succéder ou accéder au trône. Cette histoire d'illégitimité de Jeanne et l'incertitude sur le sexe de l'enfant à venir. En fait, je vous le révèle, ce sera un garçon qui va s'appeler Jean, qu'on appelle Jean le Posthume.
Vous nous spoilez.
Oui, bah oui, je vous le dis comme ça. Eh bien, sont autant d'opportunités pour le frère de Louis X, donc Philippe V le Long, d'accéder au pouvoir. Alors d'abord comme régent, puis comme roi, car même si Clémence donne naissance à un garçon, ce dernier, bien je vous le révèle, ne vécut que quelques jours, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean Ier, le posthume. Dès les états généraux de 1317, achève d'écarter Jeanne de la succession en décidant donc qu'une femme ne peut pas succéder au royaume de France. Et moi qui suis féministe, eh ben ça m'ennuie. Oui. C'est une histoire digne d'un roman. Monsieur.
C'est un roman, mais un roman qui finit mal, Stéphane.
Oui, d'autant que les malheurs des derniers Capétiens. Et là, je vous enjoins à croire à la malédiction de Jacques de Molay. Ne vont pas s'arrêter là, parce qu'aucun des deux frères du roi ne règnera bien longtemps. Philippe V meurt à 28 ans, son règne aura duré que 5 ans. Charles IV le Bel, quant à lui, il suivra dans la tombe à peine 6 ans plus tard, il a 34 ans. Aucun ne laissera d'héritier mâle, incroyable malchance ou malédiction, je vous le demande. En tout cas, cette succession de malheurs marquera la fin des Capétiens. À la mort de Charles, c'est son cousin, Philippe VI de Valois, le fils de Charles de Valois, vous savez le tonton dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui hérite du trône. Et c'est ainsi que la couronne passe des premiers Capétiens aux Valois.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
C'est une belle conclusion, Stéphane. Mmh. Est-il possible que quelqu'un sur cette planète connaisse mieux le dossier Louis X le Hutin que vous? Eh bien, figurez-vous.
Je crois que je suis le seul. Si,
il y a quelqu'un.
Il y a quelqu'un ici.
Exactement.
Qui connaît très bien.
Quelqu'un qui est avec nous, notre invité, qui va certainement nous éclairer encore un petit peu plus. Bonjour, Christelle Balouzaloubet.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'Université de Lorraine à Nancy et vous avez publié Louis X, Philippe V, Charles IV, Les derniers Capétiens aux éditions Passé composé. Vous êtes donc béton sur le sujet. Est-ce que Stéphane, déjà, n'a pas dit de bêtises?
Non, hein, je n'oserais pas.
Sur sa mort.
Mort prématurée à 27 ans, quand même.
Oui, mais on sait qu'après un exercice physique violent, il peut arriver en plein mois de juin, si on a fait en pleine chaleur, peut-être quelque chose qui aurait été un arrêt cardiaque ou une crise cardiaque.
Donc pour vous, il n'a pas été assassiné?
Non. Alors, j'étais justement en plus cet après-midi aux archives Richelieu et j'avais l'acte d'absolution de Maud Artois sous les yeux. Donc ça tombait bien, elle a été disculpée officiellement en octobre 1317, alors effectivement par son gendre, hein, donc bon, c'est peut-être un petit peu facile.
Oui, quand même.
Mais toujours est-il que, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait habituel à l'époque. Les morts inexpliquées, on pense tout de suite à l'empoisonnement. Et donc là, c'était une mort, il était en pleine jeunesse, c'est survenu brusquement. Donc l'empoisonnement est devenu l'explication la plus plausible, d'autant qu'il s'était désaltéré juste
avant. Pardon, professeur, mais...
Non, pas professeur.
Professeur.
Vous êtes maître de conférence.
Oui, voilà. C'est surtout parce que là j'ai une promotion.
Oui, vous avez
coup,
une promotion. Mais vous en parlerez avec le directeur. Vous avez
voilà,
une promotion.
Mais je pense
c'est Stéphane
que
qui l'a décidé. C'est Stéphane Bern.
Voilà. Je pense que. Donc je vais corriger tout de suite parce que sinon je vais avoir des problèmes.
Non, mais vous avez vu, lui, Louis X le Hutin. Ensuite, son frère et son autre frère, c'est-à-dire Philippe V, ils meurent tous jeunes. Est-ce que vous croyez que c'est la malédiction de Jacques de Molay?
Ça y est, vous dire voilà, avec ses idées folles. Dites-lui, explique-lui une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de malédiction.
Je suis désolée, hein, mais moi je pense qu'il n'y a pas de malédiction. C'est des choses qui, à l'époque médiévale, s'expliquent tout à fait. Voilà, il est mort de maladie, Philippe V, Charles IV également. Voilà, on est à une époque où on est très...
Très malade.
Fragile, voilà, face à... très malade, mais très fragile et on n'a pas les moyens de lutter contre ces maladies.
Europe 1.
Vous, si vous écoutez historiquement vôtre.
Je crois, Stéphane, ça a l'air de vous surprendre vous-même.
Et nous ne sommes pas trop deux, Mathieu, pour vous raconter cette histoire.
Nous sommes même trois, Stéphane, avec notre invitée, Christelle Balouzaloubé. Heureusement que vous êtes meilleur en histoire qu'en maths.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et nous sommes toujours avec Christelle Balouzaloubé, auteur de Louis X, Philippe V, Charles IV, les derniers Capétiens, pour en savoir plus sur ce sacré Louis X le Hutin.
Oui, sacré Louis X le Hutin.
C'est pas facile à dire.
On peut se demander si ce Louis X était vraiment préparé à régner. Est-ce qu'il en avait vraiment envie? Il semble un peu pris au dépourvu.
Alors, ce qui est surprenant, parce que c'est le fils aîné, donc il savait dès sa naissance, enfin bon, il n'en était pas conscient à sa naissance, hein, bien entendu, mais il savait dès son plus jeune âge qu'il serait amené à régner. Et on a l'impression qu'il n'a pas eu envie, en tout cas, d'endosser cette fonction. Il a été un petit peu surpris.
Alors, j'ai toutes les peines du monde. Madame a expliqué à mon ami Mathieu que c'était quand même un winner, vous voyez, un type bien, quoi,
si un 10. Si c'était un winner, si c'était un 10, Stéphane, eh ben, je le connaîtrais.
Non, alors, est-ce que, franchement, il mérite cette mauvaise réputation?
Pas tant que ça. Alors déjà, il est jeune, il arrive au pouvoir, il a 25 ans, donc imaginez-vous
à 25
ans.
On ne sait pas ce qu'il aurait pu faire.
Voilà. Il est resté que 2 ans parce que, ouais, il y a eu cette mort inexpliquée. Donc la première chose, c'est qu'il a dû gérer les problèmes légués par son père. Et finalement, il est mort juste quand il commençait à gérer. Mais finalement, il a rapidement quand même réussi à calmer la révolte nobiliaire que vous avez évoquée, et finalement de manière assez subtile, parce qu'il a calmé les nobles en leur faisant quelques petites réformes, mais il les a gardés dans son camp pour ensuite pouvoir faire la guerre aux Flamands. Finalement, il a aussi donc repris en main ses dossiers. Il a repris en main aussi le problème de l'élection pontificale. On n'avait pas de pape à l'époque. Il a envoyé son frère pour régler le souci. Donc, il s'est quand même imposé comme roi de France et comme souverain d'une des plus grandes puissances de l'époque.
Oui, Mathieu, c'était un type bien.
En 2 ans, on peut dire qu'il a fait pas mal de choses, effectivement. Alors, la vie de Louis X et de ses deux frères qui vont lui succéder, ça tient vraiment du roman, adultère, trahison, exécution, révolte. Coupage de Roubignol, on l'a entendu de la bouche de Stéphane Bern. Quel est le moment le plus dingue que vous retenez de tout ça, vous, quand vous avez étudié cette période?
Oui, alors je vais sortir de cet aspect, finalement, de la tour de Nesle. Mais finalement, ce que j'ai trouvé le plus dingue, c'est quelque chose qui paraît peut-être pas étonnant, mais c'est ce jeune roi qui, finalement, se fait sacrer au mois d'août 1315 et décide de partir en guerre contre les Flamands. Depuis Reims, il part en fait en Flandre avec tout son host, c'est-à-dire toute son armée. Donc, il faut bien imaginer ce jeune roi qui part avec sa grande armée, etc. Et en fait, il s'installe à Bondu, près de Lille. Je suis de Lille, hein, donc je vais utiliser la drache. Donc, c'est-à-dire ces énormes averses. Et en fait, on a une armée qui finalement ne va pas pouvoir combattre parce qu'elle est complètement embourbée. C'est-à-dire qu'on a des chevaux qui ne peuvent plus avancer tellement il y a de boue, les tentes qui sont noyées, etc. Et on a ce roi de France finalement qui est obligé de repartir, de détruire sur place tout ce qu'il ne peut pas emmener, c'est-à-dire rien. Il est obligé de laisser les chariots, les armes. Il repart la queue entre les jambes, hein, avec toute son armée pour revenir dans le royaume sans avoir combattu. Alors moi, je trouve ça assez cocasse, finalement, même si à l'époque, je pense que ça ne les a pas fait beaucoup rire.
Et... Oui, sur le moment, certainement pas. Certainement, ils n'ont pas dû beaucoup en rigoler sur le moment.
Mais avec le recul, ça donne... Alors voilà, vous qui disiez qu'il n'était pas un winner, ça donne un peu la tonalité de son règne, finalement, avec ce premier échec.
Mais je dis juste qu'il n'était pas méga connu, quoi. C'est ça que je dis.
Après, oui, oui.
Connu, mais des initiés comme vous, visiblement.
Non, mais il gagne à être connu.
Et nous sommes là pour ça.
Et au moins pour le Hutin. Mais c'est, vrai, que c'est, très
c'est vrai que c'est le seul.
Moi, j'aimerais bien que ce soit mon surnom.
Le querelleur.
Le querelleur.
Oui. L'entêté, hein, en fait. C'est plutôt l'entêté.
Oui, c'est ça. Oui, il y a un petit peu tous les sens selon les périodes, mais c'est ça plutôt le combatif et l'entêté. Il y a un peu les deux. Oui.
En tout cas, c'est formidable. J'invite tout le monde, enfin, j'invite, faites ce que vous voulez, mais à lire Louis X, Philippe V.
C'est-à-dire que vous payez le livre
oui,
de notre invité aux auditeurs.
C'est l'expression est mal choisie. Voilà. Louis X, Philippe V, Charles IV, Les Derniers Capétiens parus aux éditions. Passé composée de Christelle Balouza-Loubet.
Europe 1.
À suivre, l'histoire ce n'est pas que des guerres, des couronnements et des traités, c'est aussi des passions humaines.
Et oui Stéphane, les grands hommes sont, ne l'oublions jamais, des hommes. Et c'est connu, les hommes ne sont pas en bois. Je ne vous fais pas un tableau, comme disait Clémenceau.
Le piège classique, les premières chaleurs du printemps, une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir.
Merci Georges. Dans l'intimité de l'histoire, c'est la rubrique de Clémentine Portier-Keltenbach.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire, ce n'est pas que des dates, des traités bilatéraux et des déclarations de guerre, c'est aussi des hommes et des femmes qui agissent selon leur personnalité, leur goût, leurs croyances, parfois leur humeur. Qui n'a pas rêvé d'être un jour une petite mouche pour pouvoir entendre ce qu'ils disaient par exemple à la table ronde du roi Arthur ou lors d'une réunion du Conseil de la Résistance ?
Assez !
Gueule salope !
Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de décoloré ?
Je vais te dresser, moi,
Oui, Stéphane, dans les coulisses de l'histoire, les débats sont parfois houleux.
Et chaque jour, vers 5h moins le quart, on vous entraîne dans les coulisses passionnelles de l'histoire, des querelles familiales, des règlements de compte sanglants, du sexe.
Ça vous aimeriez, Stéphane. Vous êtes obsédé un petit peu.
Hein. Un peu, disons que c'est ce qui rend l'histoire attrayante, évidemment.
C'est une porte d'entrée intéressante.
Et vous-même, vous pouvez vous identifier grâce à cela,
ça,
l'histoire.
C'est
peu ou prou le CV de notre historienne. Clémentine Portier-Keltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors notre plongée du jour dans l'intimité de l'histoire commence avec la plus sensuelle des impératrices, la grande Catherine II de Russie, née en 1729, morte à 67 ans en 1796. Et alors, son seul nom suffit à émoustiller les foules en général et bien évidemment vous en particulier.
Oui.
Voilà, parce que qui dit Catherine II dit sexe. Voilà,
oui.
Catherine
bah
II,
le mot
bah
est lâché.
Oui, sans l'ombre d'un doute, elle souffrait de nymphomanie. Elle le reconnaissait tout à fait elle-même. Elle parlait sans aucune gêne de sa soif insatiable de plaisir et de volupté. Et alors, quand on évoque Catherine II, c'est toujours un peu la tarte à la crème. On passe toujours en revue trois thèmes incontournables, ses essayeuses, la multitude de ses jeunes amants et le cabinet érotique de Tsar Koyeselo que Stéphane, bah oui, Stéphane a vu, il l'a visité, il l'a apprécié, il va nous raconter. Alors, ne dérogeons pas à la règle, les essayeuses ou éprouveuses, eh bien, c'était la comtesse Bruce ou Anna Protasova, des proches de la reine, qui testaient elles-mêmes les prouesses sexuelles et intellectuel, donc là je ne sais pas si vous auriez tous les deux passé là-bas, des deux beaux garçons,
dans quel domaine, s'il vous plaît.
Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas sur cette
question. Elle vérifiait si c'était vigoureux.
Bah, exactement, mais pas simplement, parce qu'effectivement...
Il fallait qu'ils aient de la conversation pour après.
Voilà.
Alors
Catherine, heureuse, quand elle fumait sa cigarette. Alors, les candidats étaient d'abord examinés de fond en comble par un médecin, ça doit être un passage pas forcément très affriolant. Puis ces dames, après les avoir essayés, décidaient donc s'ils avaient assez de vigueur et de conversation pour pouvoir...
Je suis sûr qu'il y en avait qui se les gardaient.
Au lit de Catherine. Ah bah bien sûr, en tout cas, ils les essayaient. Alors une ribambelle de beaux garçons va surmonter cette impitoyable sélection. Zawadowski, Zorich, Rimsky-Korsakov.
Et le compositeur.
Oui. Il n'était pas encore tout à fait né. Alors il y en a un autre, le malheureux Lanskoy, lui, il voulait tellement bien faire, le pauvre gars. Il s'est détruit la santé en consommant trop d'aphrodisiaques. Et il en est mort. Et alors bien sûr... Le dernier d'entre eux, celui qui fait rêver toutes les quinquagénaires, le très ravissant Platon Zubov, de 38 ans moins âgé que Catherine, figurez-vous, messieurs. Oui, oui, mesdames, ça fait rêver. Alors, quand on avait donné satisfaction à l'impératrice, on avait droit à toutes sortes de compensations, elle n'était pas ingrate. Titres, fonctions officielles, propriétés, palais, serres par milliers, argents et pierres précieuses à profusion. Catherine était toujours très généreuse pour ses vrais menchiki. C'est comme ça qu'on les appelait dans le petit peuple russe. Les vrais menchiki, ça veut dire les éphémères. Alors, dernier élément de la trilogie sensuelle tarte à la crème de la tsarine, le fameux cabinet érotique de son palais d'été de Tsarskoïe-Selo. Mmh. Alors, vous êtes le seul ici à l'avoir vu, Stéphane. Qu'en avez-vous pensé, hein?
C'est-à-dire que tout est sous forme, tout est sexuel. C'est-à-dire les meubles, tout est une évocation du sexe masculin ou féminin.
Bon, on s'assoit sur un fauteuil.
Oui, exactement.
Ah, des phallus, des seins, des cuisses, des fesses sculptées dans les pieds et les accoudoirs des tables.
Il n'y a que ça. À la fin, vous n'avez plus envie.
Alors, pour recevoir sa belle-mère le dimanche, c'est quand même pas top. Alors, tout ça, c'est donc le cliché classique. Hein. C'est dur à dire. C'est le cliché classique de la tsarine Catherine Croqueuse d'Homme. Mais passons maintenant à la seule chose véritablement grandiose dans la vie, l'amour. Oui. Car si Catherine consomma beaucoup d'hommes, bien souvent, comme l'écrit Henri Troya, l'âme n'avait aucune part dans leurs tristes ébats. Or, même si elle vécut 10 ans avec Orlov, dont elle eut 2 enfants, et Poniatowski, il est un homme, un seul, qu'elle aima par-dessus tout. Grigori Potemkin, un géant échevelé, l'air d'un cyclope habillant, courtisan, c'est quand même autre chose que Platon Zubov, ce fringalet. Alors, aucun autre que lui n'atteignit un tel degré d'intimité physique et intellectuelle avec la tsarine. Il n'était certes pas le plus beau, non. Il était borgne, il ne prenait même pas la peine de cacher son œil crevé. Mais le plus viril, le plus courageux, le plus fou, le plus sincère, le plus amoureux, le plus russe, c'était Grigori Potemkin, mon mignon chéri, mon âme sœur, mon tigre, mon Grishenka, mon coq d'or. Sont les petits noms que lui donnait la tsarine, hein. Alors, quand elle en eut marre de lui comme amant, il devint non seulement son ami, mais sans doute aussi son mari à la manière de Madame de Maintenon avec Louis XIV. Hein. C'était vraiment son alter ego. Et on pense qu'ils se sont mariés fin 1774 à Saint-Pétersbourg. Les documents ont disparu, mais on a conservé plus d'une vingtaine de lettres où Catherine lui écrit « Mon mari chéri, mon cher époux » ou encore « Je reste votre fidèle épouse qui vous aime d'un amour éternel ». Leurs infidélités respectives n'entameront jamais en rien l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, tous deux partageaient une même vision de la Russie. Pour elle, il conquit la Crimée et combattit comme un lion contre les Turcs. Qu'est-ce que vous avez fait, vous deux, hein, pour les femmes de votre vie? Alors, à vous tous.
Je vous rappelle, ça nous pose des problèmes en Ukraine aujourd'hui.
Il faut le remercier, là.
Mais alors, à vous tous qui m'écoutez, sauf exception faite de Mathieu et Stéphane, parce que je sais déjà leur réponse. Mais moi, je vous le demande, mesdames, messieurs, tout bien considéré. Qu'est-ce que vous enviez le plus chez la grande Catherine II? Ses petites histoires de fesses ou sa grande histoire d'amour avec Grigori Potemkin?
La grande histoire d'amour avec le borgne.
Ouais. C'est tellement bien dit, Stéphane.
Alors là, vraiment, ça donne envie.
Mais vous dites les petites histoires de fesses. Moi, je trouve qu'elle a porté ça presque au rang. C'est plutôt des grandes histoires de fesses. Elle était dans la volupté. C'était presque un art de vivre. Moi, je trouve pas ça. Je trouve que c'est intéressant aussi.
Oui, c'est très intéressant. Surtout que les femmes à l'époque vivaient.
C'est
une femme qui vit avec des hommes qui ont 40 ans. De
c'est
moins qu'elle.
La première cougar. Donc,
la première cougar de l'histoire.
Ah bah non, ça c'est Diane de Poitiers.
Ah oui, c'est vrai.
Une autre histoire. Merci Clémentine Portier-Kaltenbach. À suivre dans Historiquement Vôtre, je vous propose de vérifier si oui ou non Stéphane Bern s'y connaît vraiment en histoire ou bien s'il fait juste super bien semblant. Bern to be alive, c'est le quiz chaque jour.
Mais vous êtes odieux.
C'est le quiz. Allez apprendre à me connaître, Stéphane.
Je quitte cette émission immédiatement.
Encore. C'est le quiz qui chaque jour va mettre au prix Stéphane Bern avec une véritable historienne, à savoir Clémentine Portier-Kaltenbach, qui reste avec nous.
Mais oui, contrairement à elle, moi je ne prétends pas être historien.
Moi non plus. Moi non plus. Avec deux historiens bidons.
C'est juste après.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Pour cette première, les amis, on vous raconte aujourd'hui les destins de 3 numéros 10 légendaires. Louis X, Otto Dix et Zinedine Zidane, le plus célèbre des numéros 10, même si paradoxalement, il a longtemps joué avec le 5, comme vous le savez probablement pas, Stéphane. Mais à ce stade de l'émission, chaque jour, nous ouvrons une parenthèse ludique. Car comme moi, vous vous posez certainement la question, Stéphane Bern est-il vraiment aussi calé en histoire qu'il le prétend?
Non.
Pour le vérifier, nous avons imaginé ce nouveau quiz. Bienvenue dans Bern to be alive. Alors c'est un vrai faux, on n'a pas révolutionné l'histoire du quiz. Une question, une réponse vraie ou faux. On commence par vous, Stéphane. Molière n'est pas mort sur scène, comme on a coutume de le dire, mais dans sa loge, 45 minutes après une représentation. Vrai ou faux ?
Ah non, il n'est pas mort sur scène.
Oui, je sais. Non, je vous demande s'il est mort 45 minutes après la représentation dans sa loge.
Oui, il est mort, absolument.
C'est une mauvaise réponse, et ça commence bien. Il n'est pas mort dans sa loge, mais
chez lui,
Stéphane.
Pas sur scène, ni à côté, il est mort chez lui.
Il habitait rue de Richelieu, dans la rue de la Comédie Française.
Exactement.
Mais voilà,
pardon, mais la question est mal posée.
Ah oui, mais néanmoins, malgré le soutien de Clémentine, vous n'aurez pas le point.
Il est mort chez lui.
Je vous le donne, le point,
30 minutes après, mais 2 heures après la 4e représentation du Malade Imaginaire.
Mais
il a perdu, c'est la voix qui le dit. C'est cette voix.
Mais c'est vous qui envoyez.
Hiérarchiquement, cette voix est au-dessus de moi. Elle vient de la régie. Ce n'est pas moi qui commande ce quiz.
Dans quel monde vivez-vous, Mathieu Noël ?
J'ai quelqu'un qui est au-dessus de moi qui décide.
En tout cas, je sais qu'il n'est pas mort sur scène.
Oui, mais on sait bien. Vous êtes bien défendu, c'est bien. Mais vous n'avez pas le point quand même. Question numéro 2. À Clémentine Portier-Calten. Jules César n'a jamais été empereur. Vrai ou faux ?
Bien sûr que non, il n'a jamais été empereur. Le premier empereur, c'est son neveu Octave, devenu Auguste.
Bon, alors on va dire à la voix, là, qui est au-dessus de moi, de faire des questions plus difficiles pour Clémentine. Effectivement, c'est vrai, César n'a jamais été empereur. Il a été grand pontife, consul annuel, mais il n'a jamais été couronné empereur. Il était impérator, ce qui signifiait... Impérator. Ah, en latin, vous êtes moins balèze.
Un peu de dictateur, conducteur, duce, fureur.
on voit vos goûts politiques se dessiner à travers cette question.
Non, vous ça avez perdu, Clémentine.
Général victorieux. On vous retranche le point. Non, je rigole. Un point pour Clémentine. Stéphane, Kumari Ratana, la reine de Siam, Siam étant l'ancien nom de la Thaïlande, est morte noyée en 1880 de façon étonnante.
Oui. Les prêtres, je vais vous raconter son histoire parce que je l'ai raconté dans un secret d'histoire.
Non, c'est pas juste. Attendez, on va voir quand même si vous vous souvenez, parce que peut-être que votre mémoire vous joue des tours. Les prêtres lui ont assuré que, vu son rang, elle n'avait pas à s'abaisser à apprendre à nager. Résultat, elle a plongé et elle s'est noyée.
Ouais, exactement. Vrai ou faux ? Bien sûr, personne n'a osé aller la chercher dans l'eau parce qu'on ne pouvait pas toucher la reine du Siam.
C'est une bonne réponse, Stéphane Bern. C'est une bonne réponse. Elle était sur un bateau qui a chaviré.
Et là, vous n'avez pas un jingle bonne réponse.
Est-ce qu'on a un jingle bonne réponse ?
Ah, ben voilà.
Ah oui, il faudrait des bussins romains. Un truc un petit peu qui est de la gueule, quand même.
Vous avez gagné.
Et première victoire, vous êtes contente. Alors, vous êtes vraiment content comme un enfant, dirait mon fils. On dirait mon fils quand on joue au Pictionary.
Non, parce que tout à l'heure, j'ai perdu pour une vétille.
Oui, non, c'était pas juste. C'était vraiment inique.
Merci. Hein,
elle était donc sur un bateau qui chavirait. Elle s'est retrouvée dans l'eau. Mais comme la loi interdisait aux roturiers de la toucher, personne n'a osé la secourir. Elle s'est noyée. Et la source, effectivement, c'est les Pourquoi de l'histoire, volume 3, d'un certain
Stéphane Bern.
Sinistre inconnu,
ça, c'est pas
Stéphane
juste. À votre honneur, monsieur le président, je m'inscris vraiment en faux. Parce que si les questions sont tirées d'un bouquin de Stéphane, c'est
bien
Stéphane
vous, Clémentine, on tire les questions de vos livres.
Oui,
aussi.
C'est pour vérifier qu'il les a bien écrits. Question numéro 4. Alors, c'est une question qui s'adresse à Clémentine. En France, jusqu'en 1933, la moustache était obligatoire pour les gendarmes. Vrai ou faux ?
Alors, ça, c'est une pratique et une loi qui a beaucoup varié. À une époque, les instituteurs n'avaient plus le droit de porter la barbe. Elle était imposée dans l'armée, dans la Légion en particulier. Donc, qu'elle ait pu être imposée dans la gendarmerie, c'est tout à fait possible.
Alors, je ne demande pas si c'est possible.
Alors,
si c'est
moi,
vrai,
je dirais vrai.
Vous dites vrai, c'est une bonne réponse, Clémentine. Et ça a créé des jalousies quand, en 1907, les limonadiers, comprenez les garçons de café, font grève pour avoir le droit de porter la moustache. Le 4 mai de cette année, leur revendication est entendue. Est-ce que vous êtes moustache, Stéphane, vous ?
Je suis glabre.
Non, mais pas pour vous, dans vos goûts. Est-ce que vous trouvez que c'est joli ? Non, vous n'aimez pas la moustache ?
Moi, oui.
C'est noté, le message est passé.
Ça vous va bien, vous ?
Mais j'ai pas de moustache. Ah oui, j'ai
quoi ? Tous les jeunes portent la barbe.
Oui, mais pas la moustache, c'est plus rare.
Ils ont la flemme de se raser.
Juste la moustache, c'est ça ?
Non.
C'est
le seul moustachu que j'ai, c'est Hitler, et franchement, ça me donne pas vraiment envie.
Effectivement. Dernière question, elle vous concerne tous les deux. C'est une question de rapidité. Attention. Attention. Dans les starting blocks, est-ce que Charles de Gaulle aurait pu utiliser un Walkman ?
Bah oui.
Moi, je dirais non, il est mort en 70. Tu crois qu'on avait déjà des...
Alors, c'est une question de rapidité, mais il fallait aussi donner la bonne réponse. Stéphane, c'est raté. Bonne réponse de Clémentine. Non, le général de Gaulle est mort le 9 novembre 70 à Colombey-les-Deux-Églises. Le premier Walkman est lancé sur le marché japonais en 1979, Stéphane, c'est pas si vieux le Walkman.
Moi, je pensais que ça avait existé.
Ça avait existé avant. Avant, il y avait des tourne-disques comme ça, ouais. Portatifs, qu'on mettait comme ça. Dans
le
son
manche-disque.
Un sac à dos manche-disque. Non, c'est une victoire écrasante.
Ah, pour Clémentine,
pour
Gatelmack. Oui, oui.
Ah, non, ah, oui, là, oui, oui. Vous voulez m'humilier, c'est ça?
Peut-être que ça m'excite. Europe 1. Quand le savoir et l'humour s'encanaillent et se roulent lassivement dans le foin de l'histoire. C'est Historiquement Vôtre, deux heures avec Stéphane Bern et des invités prodigieux, des stars de l'histoire et des stars tout court qui aiment l'histoire, avec une deuxième heure qui s'annonce énorme.
En présence du pape Pie VII.
Oui, peut-être, on croise les doigts, ils doivent encore tout confirmer sur Doodle, c'est pas sûr.
Il va avoir du mal à venir. Hein.
Peut-être avoir un petit peu de mal. Aujourd'hui, non, c'est au numéro 10 que l'on s'intéresse. Louis X le Hutin, le peintre Otto Dix et Zinedine Zidane, le 10 des 10.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Et oui, vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission dans laquelle on parle d'histoire, on s'amuse et souvent les deux en même temps. Chaque après-midi, on réunit trois personnalités qui ont marqué leur époque en compagnie de celui qui a déjà marqué la sienne, Mathieu Noël.
Oui Stéphane, je ne dirai jamais assez, hein, ce début de saison, la joie, pour ne pas dire l'ivresse, que me procure votre arrivée à mes côtés. Joie partagée avec l'ensemble de la rédaction d'Europe 1 et pour cause, vous n'êtes pas du tout arrivé en vedette, mais humblement, nul n'oubliera vos mots lors de votre pot d'accueil tout à l'heure.
Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde et vous y trouverez honneur, gloire et richesse.
C'était un beau pot d'accueil et un beau discours, Stéphane. Bienvenue parmi nous.
Merci beaucoup. Une deuxième heure qui sera, je l'espère, au moins au niveau de la première, car cette fois, c'est vous, Mathieu, qui allez nous raconter le destin d'un homme qui a marqué l'histoire récente, qui continue d'ailleurs de l'écrire, Zinedine Zidane, numéro 10 d'anthologie. Avant cela, eh bien, Olivier Peuls viendra parfaire notre culture culinaire.
Hein, je crois.
Oui. Bref, vous l'avez compris, c'est la première, et déjà, il n'y a que des numéros 10 dans notre team.
Que des numéros 10 dans ma team.
Stéphane Bern qui lance du booba. Je crois qu'Europe 1 est vraiment en pleine métamorphose.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Je vois que vous commencez à prendre goût aux chansons du duc de Boulogne, B2O, Booba quoi. Après Louis X, c'est donc l'autre numéro 10 de notre team, Stéphane, que vous allez nous dépeindre, le peintre Otto Dix.
Otto Dix. Monsieur.
Ah oui, je parle mal allemand, pardon.
Oui, alors, non, mais ça a son importance. Même si ça s'écrit, vous voyez, comme ça, on dit Dix. Alors, direction l'Allemagne, en effet, l'Allemagne de la première moitié du XXe siècle. L'Allemagne de la Première Guerre mondiale, de la République de Weimar, de l'arrivée au pouvoir d'Hitler et de la Seconde Guerre mondiale. De ces étapes, de ces traumatismes, de ces extrêmes dont l'homme est capable, Otto Dix fut le chroniqueur à la fois fasciné et horrifié, portant sur son époque un regard impitoyable de réalisme. Même les choses les plus discutables sont dignes d'être vues et représentées, disait-il. Voilà une phrase qui décrit bien l'œuvre de cet artiste virtuose et dérangeant. Otto Dix est un peintre à l'histoire hors du commun, finalement assez peu connu, il faut bien le dire, du grand public, mais dont la vie et l'œuvre ont de quoi fasciner.
Je vous crois, Stéphane, je suis déjà.
Oui, alors Otto Dix, je ne sais pas pourquoi je parle allemand.
Là, c'est-à-dire que vous imitez Karl Lagerfeld.
Oui, en fait, c'est ça qui
vous
parle.
Vous imitez Nicolas Canteloup imitant Karl Lagerfeld. C'est très intéressant.
Otto Dix.
Otto Dix, oui,
maintenant. Est né le 2 décembre 1891 dans une famille ouvrière de Gera près de Dresde, et il manifeste très tôt ses talents de dessinateur et de peintre.
Moi aussi, je me souviens bien, à 3 ans, eh bien, je dessinais de très beaux soleils, Stéphane.
Oui, sauf que lui, contrairement à vous, obtient en 1909, à 18 ans, une bourse d'études pour l'école des arts décoratifs de Dresde. Il y sera élève 5 ans jusqu'à ce que l'histoire fasse prendre à sa vie un virage décisif. En 1914, l'Allemagne s'apprête à envoyer ses hommes sur le front de la Première Guerre mondiale, et Otto Dix n'échappe pas à la ferveur générale, lui aussi enthousiaste et sûr de la victoire. On y partait la fleur au fusil. Après une formation d'artilleur qui dure un an, il se porte volontaire pour rejoindre le front. Il n'a alors que 23 ans et reste mobilisé jusqu'à la fin du conflit. La guerre, c'est une chose horrible, mais grandiose à la fois. Il faut avoir vu l'homme dans cet état de déchaînement pour savoir ce dont il est capable, écrit-il alors. Dans les tranchées, il produit des centaines de croquis. Il y retranscrit toute la violence de cette expérience, les visages terrifiés, les regards hagards de ses camarades, le champ de bataille dévasté par les obus. Ces images l'accompagneront toute sa vie pour lui. Et je cite, « C'est une beauté rare qui s'exprime. » cette fascination.
Un petit peu pervers, cet Autodix.
Oui, il était dans les tranchées, quoi. Cette fascination pour les recoins les plus sombres de l'expérience humaine marquera toute son œuvre. Il fera des vices et des tabous de la société, comme la violence, la prostitution, la dépravation, ses sujets de prédilection. À son retour en 1918, il entre à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde et il s'y essaye un temps un tout autre style.
La gouache. Moi j'aime beaucoup. J'ai eu une période gouache.
Oui. C'est vrai.
Je vous montrerai, ma mère a conservé des très belles
choses. Ça m'intéresse, oui. La gouache, non. Alors, c'est pas la gouache. C'est un style quasi abstrait. Mais très vite, Autodix revient à ce qui le caractérisera toute sa vie, une représentation réaliste et sans compromis de l'âme humaine. Il n'est alors qu'un peintre anonyme, mais son départ pour Düsseldorf va bientôt faire de lui le portraitiste le plus en vue d'Allemagne. Il y fait la rencontre d'une galeriste atypique, Johanna Hay, dont l'influence et le réseau vont marquer un tournant décisif dans sa carrière. Et c'est là-bas également qu'il fait la rencontre de Martha, sa future femme. C'est pas la grosse Bertha, je sais que
vous n'y avez pas... Non, ça n'a rien à voir. Mais une autre, vous nous racontez l'histoire de la grosse Bertha aussi.
Oh bah oui, parce que pendant la Première Guerre mondiale, on n'a parlé que de ça. Elle n'est autre que l'épouse du commanditaire de sa première commande rémunérée, un certain docteur Koch.
Enfin, nous y sommes. Alors, parce que je n'ai rien contre les peintures de guerre, mais je préfère l'amour, Stéphane.
Ça tombe bien, Mathieu. Les deux jeunes gens nouent une idylle qui fait scandale à Düsseldorf. Je vous rappelle, elle était mariée avec le commanditaire. Mais cela n'arrête pas Autodix. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul aspect de la vie personnelle d'Autodix à aller à l'encontre des bonnes mœurs.
Doucement quand même, peut-être que des enfants nous écoutent, c'est l'heure du goûter.
J'ai conscience. Au début des années 30, alors qu'il est marié et a 3 enfants avec Martha, Autodix entame une relation avec une autre femme. De cette liaison naîtra une fille. On sait assez peu de choses sur cet épisode, seulement qu'à la fin de sa vie, il se partagera entre deux familles, donc il a un double foyer, vous voyez, chacune, en fait, de ces familles connaissant l'existence de l'autre.
Un vaudeville allemand, en somme.
Oui, enfin, on en a vu dans notre pays aussi, hein, c'est arrivé, souvenez-vous. C'est vrai qu'Autodix ne s'embarrasse pas du quand dira-t-on, il n'a pas peur de choquer, ni dans sa vie, et encore moins dans sa peinture.
Je sens que ça va être chaud. Autodix a-t-il peint des femmes toutes nues, des messieurs aussi peut-être? Stéphane pourrait vous le dire tout de suite.
Eh bien non.
Quel sens de la dramaturgie.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue. 2 heures de bonne humeur, de découverte et aussi de suspense. Stéphane, nous sommes suspendus à vos lèvres charnues pour découvrir la vie de ce peintre hors norme, Autodix.
Justement, vous l'avez compris, Autodix peint des nus. Mais s'intéresse à des sujets extrêmes, la prostitution, le viol, le sadomasochisme et même le meurtre sexuel. Et oui, toujours cette fascination pour la violence qui le poursuit bien au-delà de la guerre. C'est d'ailleurs à cette époque, c'est-à-dire presque 10 ans après la Première Guerre mondiale, qu'Autodix se replonge dans son expérience au front. Il produit une série de gravures à l'eau forte qui restera célèbre. Le langage expressionniste qu'il utilise, à grands coups de contraste, de traits anguleux, brutaux, cassés, déformations de lignes, témoigne avec force de la violence de la guerre. Les mots ne sont pas suffisants pour traduire la puissance qui se dégage de ses œuvres et l'effet que ça a pu avoir sur la population allemande. Sa démarche, pourtant, n'était pas politique. Son approche se contente de dépeindre en langage pictural la société dans laquelle il vit. Et sur ce point, il se sent proche de ce qu'on appelle la nouvelle objectivité. C'est un mouvement artistique qui voit le jour en Allemagne après la Première Guerre mondiale et qui a pour vocation de laisser parler la réalité. Alors, s'il n'est pas politique, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Autodix se retrouve dans le collimateur des nouveaux dirigeants. Les nazis rangent son travail dans une catégorie qu'ils qualifient d'art dégénéré. Alors qu'il était devenu professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde, il en est exclu en 1933.
Ça, les nazis ne sont pas réputés pour aimer la peinture.
Ah, en effet, son œuvre la plus célèbre, un triptyque achevé en 1932 et sobrement intitulé « La guerre », illustre bien la menace que représente Autodix pour l'idéologie hitlérienne. On y voit des soldats partant au combat, un champ de bataille bombardé, des corps déchiquetés. C'est un témoignage direct de la monstruosité de la guerre. À ce titre, elle est perçue comme risquant de mettre en péril l'ardeur guerrière des Allemands. Contraint de fuir Dresde, il s'installe dans le sud de l'Allemagne où il peint de grandes allégories critiques et engagées cette fois sur l'actualité de son pays. On peut citer notamment 2 œuvres, Les 7 péchés capitaux, dans laquelle la jalousie prend les traits d'Adolf Hitler.
Au passage, il a quand même piqué le titre d'une très bonne émission de Julien Courbet. On peut le dire. Mais...
Oui, non. Ne plaisantez pas, c'est trop sérieux. Il a peint aussi le terrifiant triomphe de la mort qui semble présager des abominations à venir. Mais cette défiance à l'encontre du pouvoir le met en danger. Quelques mois avant l'invasion de la Pologne en 1939, il est soupçonné d'avoir un lien avec l'un des nombreux attentats perpétrés contre Hitler. Il est arrêté et il passe quelques jours en prison. Cette expérience le pousse à s'éloigner définitivement des sujets de société Mais ses efforts pour rester en dehors de la guerre vont connaître un dernier écueil. En décembre 1944, à l'âge de 53 ans, une vague de mobilisation le ramène sur le front. Il est fait prisonnier en France, puis relâché à la Libération. Et savez-vous, il meurt en 1969 d'un AVC, après avoir enfin reçu plusieurs distinctions artistiques et officielles, dont la Croix fédérale du mérite.
Pour une fois, vous savez de quoi le personnage dont on parle est mort. C'est un bon point pour vous, Stéphane.
Oui. Alors pour son œuvre, Mathieu, il a reçu donc toutes ses médailles, tous ses prix. Il a pris Rembrandt, il a été multi-récompensé. Une œuvre qui s'inscrit bien sûr dans l'histoire de l'art, mais elle prend tout son sens grâce à l'histoire avec un grand H, parce qu'elle constitue un témoignage à part entière et de premier ordre d'une époque clé et sombre comme le sont ses toiles. C'est la trame de fond, c'est le XXe siècle et ses guerres monstrueuses. Alors, ces tableaux, ces dessins, ces gravures offrent une autre manière de lire cette période tant étudiée par les livres. Ce ne sont pas des photographies ni des films, mais des supports tout aussi précieux. C'est un véritable documentaire pictural qui donne à voir une autre facette de la vérité et peut-être encore plus crue.
Sacré Autodix, dont le côté cru pouvait choquer, il est vrai, ses modèles, surtout les femmes.
Alors Thérèse, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez comment dire, la recherche créative. Le délire de l'artiste.
Et oui Stéphane, il semblerait qu'Autodix ne nous ait pas encore livré tous ses secrets. Notre invité, lui, va tout nous dévoiler.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Et oui Mathieu, nous sommes avec Serge Legal qui est conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts à Paris. Bonjour Serge, merci d'être avec
nous. Bonjour.
Le peintre Autodix, on vient de l'entendre, reste comme un témoin d'une époque trouble en Allemagne et dans le monde entier. Ces tableaux nous racontent l'époque comme une photographie, c'est au fond un témoignage comme un journal.
Je dirais que c'est même plus qu'un témoignage, c'est une violence qui s'exprime, c'est en fait un miroir qu'il projette à la société de son temps, et c'est même pas la figure de la société, il le jette à la gueule de la société, puisque c'est un art violent, revendiquant cette violence, et qui veut dénoncer toute une société bourgeoise qu'il exècre. C'est vraiment un des aspects très forts de sa peinture.
Je vous engage à aller voir sur Internet quelques tableaux pour vous faire une idée. C'est beau, mais c'est pas joli. C'est-à-dire que c'est violent, comme vous dites.
C'est tout sauf la beauté.
C'est très fort.
Alors c'est très fort, effectivement, mais c'est tout sauf la beauté classique. Il y a un rejet de l'académisme, et ça va même plus loin. Il rejette aussi tout ce qui relève de l'impressionnisme, parce que c'est de peinture de pure sensation. Là, on veut exprimer quelque chose de violent. L'artiste doit faire jaillir du plus profond de lui-même tout ce que d'habitude on n'exprime pas.
Mais ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, alors il a été interdit, puis aujourd'hui redécouvert, on le présente Autodix comme l'un des plus grands peintres allemands.
C'est sans aucun doute le cas, et ce qui a beaucoup joué pour lui, c'est au fond le moment où il y a eu des réactions très figuratives après le triomphe de l'abstraction. Les années 1945-1960, la peinture abstraite est devenue la sacro-sainte peinture que tous les musées revendiquent. Et après, il y a une réaction, comme toujours, parce que l'histoire de l'art, c'est un phénomène d'avancée et de recul, et on a un besoin de revenir à la figuration. Et là, justement, Autodix, avec cet art très figuratif, retrouve une place qui devient une place très très vite du premier niveau.
On sait que les peintres, en fonction des époques, s'influencent beaucoup les uns les autres. Qui a influencé Autodix et qui il a à son tour influencé ?
Alors, si on voulait remonter très loin, je dirais que Autodix, qui est en fait un des grands champions de ce qu'on appelle l'expressionnisme, revendique tout l'art allemand ancien. Il aime des artistes comme Cranach, comme Grunewald, comme Dürer. D'ailleurs, un jour où on l'a interviewé, il déclarera « Cranach et Dürer sont bien plus importants pour moi que Rembrandt ». Donc, il revendique le passé germanique qui relève de la grande peinture qui était celle du passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Mais beaucoup plus proche de lui, il revendique ceux qui ont exprimé la violence, qui ont osé l'exprimer. Par exemple, Van Gogh. Van Gogh est vraiment une référence totale. Mais le peintre flamand James Ensor, le peintre norvégien Edvard Munch sont vraiment pour lui des références. Mais on pourrait rajouter Toulouse-Lautrec, on peut rajouter Degas avec sa vision de la prostitution. Exactement.
Mais ça vaut combien une toile de
Autodix ?
La cote, c'est quoi la cote de Autodix ?
La cote a beaucoup, beaucoup monté. J'ai pas regardé les derniers.
Est-ce que Stéphane peut encore se payer du Autodix aujourd'hui ?
Sans problème.
Mais moi, en revanche, non, je peux acheter la reproduction.
Attendez, entre 1984 et 2020, Vous n'aviez jamais entendu parler d'Autodix, Mathieu.
Oui, mais si j'en veux un, si j'en veux un.
Si, il y a une chose que l'on peut très bien acheter, ce sont les gravures, puisque c'est un très très grand graveur. Et ça, les gravures, évidemment, sont à un coût très très inférieur.
D'accord, mais sa cote continue de monter.
Sa cote continue de monter, absolument.
Donc c'est le moment d'acheter.
Et oui, nous sommes toujours en train de parler d'Autodix, de ses œuvres, avec notre invité Serge Lega, Mathieu. C'est vrai que c'est un homme qui n'a, comme vous, qui n'a jamais eu peur de choquer, ni dans sa peinture, ni dans sa vie.
Et non, mais d'ailleurs, je vous parlais de ses peintures. Vous savez que ma mère conserve précieusement ses peintures dans le grenier de la maison et parfois elle les montre à des invités, ce qui est absolument horrible. Lui interdit, ce sont des croûtes innommables. Alors ça ne vaut rien, Stéphane, ça ne vaut rien du tout.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'histoire, le sourire aux lèvres chaque après-midi sur Europe 1. Un sourire qui peut se crisper devant l'étoile de notre deuxième personnage du jour, le peintre allemand Autodix. Vous avez vu, j'ai enfin réussi à le prononcer correctement.
Ah, bravo Mathieu, votre faculté à progresser rapidement est un gage de succès pour cette émission. Avec nous, avec nous pour parler d'Autodix, Serge Legade, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors, comment vous expliquez, Serge, que son œuvre et sa vie aussi, parce qu'elles sont étroitement liées l'une à l'autre, fascinent autant les gens?
Parce que je pense que nous sommes à une époque où on a remis en cause d'abord la notion de beauté dont on parlait. Il y a plus de sacro-sainte beauté. Tout peut être montré. Et nous sommes en plus à une époque où la provocation est de nos jours revendiquée par les artistes. D'une certaine façon, Autodix, Max Beckmann, toute cette tendance de la nouvelle objectivité était parmi les premiers à assumer la provocation. À une époque, les artistes subissaient la provocation. Maintenant, il y a une sorte d'art de la provocation et on peut pratiquement dire que ces artistes allemands sont un point de départ pour cette volonté de choquer le bourgeois, pour prendre l'expression de l'époque.
Mais Serge, à part sur Internet, comme le fait Mathieu, où est-ce qu'on peut voir les œuvres d'Autodix?
Soyons francs, pour voir la peinture allemande, il faut de toute façon aller dans les musées allemands. C'est une peinture, quelles que soient les époques, très mal représentée en dehors de l'Allemagne. Ah oui, mais en général, il faut quand même penser qu'en France, on a un tableau de Durer en tout et pour tout. C'est l'autoportrait qui est au Louvre. Sinon, on a des dessins, on a des aquarelles, mais on n'a aucun tableau à
tout est dans la collection privée de Stéphane.
Tout est
pendant la guerre, ils les ont récupérés.
Non, mais l'art allemand est un art qui a toujours dérangé les autres pays. Donc, on trouve des tableaux, entre autres, d'Autodix en Allemagne. Un musée très riche, c'est le musée de Stuttgart. Le musée de Cologne sont des musées très riches.
Et c'est puis, alors, on n'y pense pas.
On n'y pense pas. Mais si, alors à Paris, il faut aller au centre Georges Pompidou. On a quand même quelques très beaux tableaux. Le portrait de la journaliste Sylvia von Harden est un des grands chefs-d'œuvre du centre Georges Pompidou. Puis alors, un autre musée très riche, c'est le musée d'art moderne de New York. Le MoMA a également quelques tableaux importants. Mais 90% de la production est en Allemagne.
Alors Serge Lega, autant la passion pour l'histoire de Stéphane est authentique et sincère, autant la mienne me sert plutôt à briller dans les dîners. Est-ce que vous me donnerez quelques noms de tableaux d'Autodix que je puisse placer comme ça dans la conversation?
Ah oui,
les alors, plus connus. On a entendu parler de la guerre tout à l'heure, les sept péchés capitaux.
Alors la guerre, les sept péchés capitaux, moi je suis très sensible à toute une peinture des années 1920 qui sont peut-être les tableaux qui sont les plus directement marqués par le choc de la Première Guerre mondiale. Alors je ne suis pas certain que ce soit des tableaux qu'on ait envie d'avoir chez soi. Par exemple, il y a un tableau que je trouve exceptionnel qui s'appelle Le Vendeur d'allumettes. Alors, le Vendeur d'allumettes, c'est un soldat, ça fait partie de ce qu'on appelle les gueules cassées. C'est-à-dire qu'il revient de la guerre, il est amputé des bras, il est amputé des jambes, il vend des allumettes. Donc, c'est un mendiant. À côté de lui,
il y a une
société.
Comment il vend des allumettes?
Ah ben, il les désigne avec le menton. Et là, alors c'est horrible, ce tableau très triste, Stéphane.
Donc, Stéphane, t'as vraiment pas de cœur.
Et en plus, dans le tableau, sans parler que personne n'achète ses allumettes et que personne ne s'intéresse à lui, il y a un chien qui urine sur lui. Donc, c'est vraiment l'image même de ces hommes perdus, quoi, de ces gueules cassées. Et alors là, les estropiés, c'est un thème systématique des années 20. On a les joueurs de scat. Le scat, comme vous le savez, je pense tous les deux, c'est un jeu de cartes très prisé en Allemagne. Donc, ce sont trois estropiés qui jouent ensemble. Alors, jouer aux cartes quand on est estropié, c'est relativement compliqué également. Donc tout ça est une,
c'est pas gagné.
Ça va être très dur. Hein, c'est pas des tableaux.
Mais moi, je ne veux pas les acheter. Je veux juste en parler à mes amis. Mais, tu connais. Surtout la période années 20, directement après la guerre.
C'est ça. La tranchée. La tranchée qui a fait un énorme scandale en son temps. Ça, c'est un tableau qui était.
Il y a des tableaux qui ont été perdus parce que les nazis en ont brûlé beaucoup.
On a brûlé énormément. L'œuvre, on pense que c'est au minimum 200 toiles d'Autodix qui ont été brûlées dans les fameuses autodafés. Et il était vraiment considéré comme un des chefs de file, si je puis dire, de l'art dégénéré. Il était vraiment une des cibles numéro un, puisque lorsqu'il est renvoyé de l'université de Dresde, il est traité de bolchévique de la culture. Parce qu'en plus, il est
ça,
très...
C'est une insulte à l'époque.
À l'époque, c'est une grande insulte. Donc, il est vraiment considéré comme en plus très marqué politiquement parlant.
Le mot bolchévique a été prononcé, Stéphane, est toujours vivant, tout va bien.
Oui, et vous
moi, fort bien, Stéphane.
Bon, en tout cas, merci Serge Legas d'avoir été notre deuxième invité de cette première émission d'Historiquement Vôtre sur Europe 1 consacré au numéro 10. Et oui, ça fait beaucoup de chiffres. Hein,
beaucoup
ça.
De chiffres, mais on va y arriver, Stéphane.
Europe 1.
Sans transition, après les nazis, Stéphane, êtes-vous un bon vivant ?
Vous voulez savoir si j'aime manger, picoler?
Oui,
c'est ça. Oui. Ah, j'adore ça.
Comme vous êtes fin comme un roseau, permettez-moi d'en douter quand même. La France, en tout cas, est le pays de la gastronomie par excellence. Sauce gribiche, grand veneur, boucher à la reine, d'où nous viennent toutes ces recettes au nom parfois poétique. Eh bien, Olivier Pouls, le Fernand Braudel de l'andouillette triple A, vous le raconte. Comment vous présentez Olivier Pouls, Stéphane? Vous voyez la mouvance végétalienne, éco-responsable, antispéciste, voire végane? Eh bien, Pouls, c'est à peu près exactement l'inverse.
Je te sers un coup de pommard? Ça rime avec Brakman.
Il va vous le prouver dans sa nouvelle rubrique, Papilles de la Nation.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et bon, bienvenue. Si vous nous rejoignez Historiquement Vôtre, c'est chaque après-midi la passion de l'histoire nappée d'une délicate couche de bonne humeur. C'est gourmand, là.
C'est gourmand.
Ouais, oui, l'histoire, c'est gourmand.
C'est gourmand et c'est joliment dit, Stéphane, parfaitement à propos, puisque chaque après-midi, non content de vous parler des grandes figures de l'histoire, on va vous parler également des grands plats de l'histoire. Vous révélez leurs secrets, comme jadis Bernard Blier.
Voilà le secret du foie gras truffé. 50-50. La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf. Si j'ai pas mes 5000 calories, je suis une loque.
Pour retracer l'histoire d'une recette, d'un produit ou même d'un ustensile, il nous fallait quelqu'un qui ait des casseroles. Lui, il en a beaucoup, Stéphane, notamment cette recette qu'il avait faite en rappant devant Akhenaton.
Et je mange l'aïoli dans un mortier. Là, il te faudra m'être coupé.
Akhenaton qui, depuis étrangement, n'est plus jamais revenu à Europe 1. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, mais je ne sais pas ce qu'il lui prend d'ailleurs.
C'est vrai, c'était un très bon rap.
On va en faire un deuxième.
Peut-être. Aujourd'hui, c'est la première d'une nouvelle rubrique.
Papy de la Nation, Olivier Pouls.
Alors Olivier, qu'avez-vous choisi comme premier plat?
Alors un plat, un emblème. Une bénédiction des dieux, si je devais choisir...
Ça doit être bien gras, mon ami, s'il part comme ça.
Bah, écoutez, je vais vous mettre sur la piste. Je vous en couperai bien une bonne tranche. Et je sais que depuis longtemps, vous me considérez comme l'inventeur de ce plat, mais je ne le suis pas du tout, hein, je vous rassurer.
Attendez.
Qu'est-ce que vous diriez de partager un pâté en croûte?
Ah, le pâté en croûte,
l'incontournable.
C'est vrai que c'est votre spécialité.
Bah évidemment, j'adore ça. Alors, vous savez que le pâté en croûte, il est relativement ancien. On avait la tradition, à l'Antiquité, de faire des pâtés déjà, des morceaux de viande qu'on hachait, qu'on relevait, qu'on mélangeait avec ce qu'on avait, des épices, des herbes qu'on cuisait. Mais la croûte arrive en réalité au début du Moyen-Âge. Et la vocation de la croûte, les premières croûtes, qui sont en fait ce qu'on appelle des pâtes mortes, c'est en fait de la pâte à pain, c'était pas pour améliorer la qualité gustative du pâté, parce que la croûte, on ne la mangeait pas.
Ah non, c'est pourquoi,
c'était
alors
tout simplement pour permettre conserver une meilleure cuisson et la conservation. Parce qu'on cuisait ainsi la viande à l'étouffée, elle restait plus moelleuse, et on pouvait la garder quelques jours. Alors, un petit peu plus tard, on va se mettre à manger la croûte, parce que les techniques d'élaboration de la croûte vont s'améliorer. Dans chaque petite région, on va inventer des pâtés qui vont devenir des petites spécialités.
Le pâté en croûte, c'est partout en France?
Ah oui,
chaque
c'est pratiquement
région a son
partout
pâté en
France.
Le pâté de Chartres. Un
le pâté de chèvre, en Lorraine, par exemple, le pâté lorrain, on va en trouver en Champagne.
Attendez, stop, 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 on fait un point, parce qu'il se trouve que je connais le pâté lorrain, parce que je connais pas grand-chose, mais le pâté lorrain, ça n'a rien à voir avec le pâté en croûte, je trouve.
C'est,
ça
ressemble l'idée, à... c'est l'idée.
Oui, mais il est très différent, donc il y a plein de pâtés en croûte très différents.
Évidemment, et en fait, à l'époque, ce sont des pâtés très simples, et surtout, c'est une spécialité qui n'est pas une spécialité charcutière, mais une spécialité boulangère. C'est chez le boulanger qu'on trouve le pâté en croûte, parce que lui sait faire la croûte, alors que le charcutier ne sait pas. Et puis arrive le 19e siècle, et surtout une femme, Aurore Récamier. Et Aurore Récamier va inventer ce qui est le graal absolu, le pâté en croûte des pâtés en croûte, l'ultime. Aurore Récamier est la mère de Brillat-Savarin. Ah. Et elle invente l'oreiller de la belle Aurore.
L'oreiller de la belle Aurore.
Eh oui, et c'est un pâté en croûte absolument incroyable que quelques rares chefs ou charcutiers arrivent encore à refaire aujourd'hui. Alors, il faut imaginer quand même. Il y a dedans environ une quinzaine de viandes, du canard, de la volaille, du pigeon, du gibier, du foie gras, du veau, des riz de veau. Le tout avec de la truffe.
Évidemment, emballé, sinon c'est pas drôle.
Emballé, c'est la totale, en fait.
C'est la totale.
C'est la complète, la jambe fromage des pâtés en croûte.
C'est incroyable. Il faut goûter ça au moins une fois dans sa vie.
Mais oui, mais on trouve ça où ?
Et mourir ensuite, parce qu'en revanche, c'est tellement calorique. Tu bouffes ça, puis
non,
c'est fini.
Non, mais attendez. Un vrai oreiller de la belle Aurore fait 60 cm sur 60 cm et il pèse pas moins d'une quinzaine ou une vingtaine de kilos.
Faut voir quelques années.
Imaginez quand même le truc, quoi. Et alors, il faut en plus disposer les viandes de manière habile, de manière à ce que quand on en coupe une tranche,
on est toutes les viandes.
Exactement.
Mais c'est extrêmement compliqué. Il faut être
deux jours de boulot en se levant tôt. Je vous invite, si vous voulez, on peut essayer d'en faire ensemble. Alors, il y a encore quelques chefs aujourd'hui qui le font sur commande. Il y a des charcutiers à Paris qui le font. Je pense à Gilles Véraud, par exemple, qui, durant la période hivernale, parce que c'est plutôt, vous l'aurez compris, un plat
oui,
d'hiver.
Oui, c'est vrai que le 15 août, c'est
voilà,
pas vraiment...
un plat d'été. Mais il le fait. Vous pouvez encore déguster ce pâté en croûte qui va, en fait,
et on
être
mange...
là.
Une part d'histoire, j'aurais dit.
On mange une part d'histoire, et puis surtout, c'est lui qui a ensuite emmené vers la création de toute une sorte de pâté plus ou moins élaboré, en général quand même un peu plus simple que celui-là, mais qui vont se développer au fil du temps. Et puis, en réalité, le pâté en croûte, après-guerre, avec l'industrialisation, va se ringardiser. Le pâté en croûte, dans les années 70-80, c'est ringard. C'est des croûtes un peu humides, molles, sans grand intérêt. C'est souvent des trucs qu'on trouve en supermarché et ça n'intéresse plus grand monde. Mais, heureusement, il y a 15 ans, béni soient ces quelques amis de la région lyonnaise qui ont l'idée de lancer le championnat du monde de pâté en croûte. Alors, au début, c'est une blague. Il se déroule à Tain-l'Hermitage chaque année. Et pour la première édition, il y a quelques charcutiers locaux qui participent. Mais il se passe un petit truc. Et aujourd'hui, c'est une véritable institution. Il y a des candidats qui viennent du monde entier. Il y a des présélections pays par pays.
Il y a des Japonais qui font du pâté en croûte.
Et puis surtout, qui gagnent.
Non.
Parce que ça demande quand même.
Imaginez des Japonais qui remportent le championnat du monde de pâté en croûte.
Bah oui, parce que ça demande des techniques absolument incroyables. Il y a trois techniques pour faire un bon pâté en croûte. Il faut être un bon boulanger pour la croûte. Il faut être un bon charcutier pour ce qu'on va mettre dedans. Et un bon cuisinier. C'est extrêmement complexe, un bon pâté en croûte.
C'est extrêmement complexe.
Je vais vous poser vite, rapidement. Comment on fait pour que la croûte, quand vous conservez le pâté en croûte, la croûte ne ça soit pas humide au réfrigérateur,
ah, oui,
vous voyez.
C'est humide au réfrigérateur, c'est vrai.
Et après c'est elle est plus croustillante.
Il faut manger son pâté en croûte assez rapidement. Donc si vous en avez quelques tranches, ne les gardez pas,
ça ne se conserve pas.
Mais non, on va s'en occuper, vous allez voir, la croûte va être parfaitement croustillante.
Si votre pâté en croûte s'humidifie, Stéphane, appelez-nous, on interviendra rapidement.
On intervient dans l'heure, dans l'heure,
7 jours sur 7. Merci Olivier Pouls.
Alors, Louis X, Autodix, Zinedine Zidane, vous demandez peut-être depuis le début de l'émission ce qui relie nos trois personnages du jour. Bah, seul quelqu'un d'aussi fou que Mathieu Noël détenait la réponse à cette question.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Raconter l'histoire sans se la raconter, c'est l'objectif d'Historiquement Vôtre, votre nouveau rendez-vous quotidien. Une émission où, cependant, la rigueur éditoriale est de mise. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on saluera la cohérence de notre thématique « Que des numéros 10 dans notre team ».
Oui Stéphane, aujourd'hui nous avons évoqué le destin de Louis X, celui d'Otto Dix. Il reste un 10. Voulez-vous un indice ?
Un roi, un prince, un empereur, un pape.
Un peu tout ça à la fois, Stéphane, en tout cas pour les amateurs de ballon rond, même si c'est un nom que tout le monde connaît, enfin tout le monde, presque.
Alors est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football ?
J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, je l'adore comme joueur. Bon.
Zazie, pour les uns, Zizou pour les autres. Je vais revenir cet après-midi sur le destin du roi du foot français, son Altesse Zinedine Zidane. Alors oui Stéphane, je vous vois rouler des yeux, vous vous dites, mais enfin mon garçon, tout a été dit sur ce meneur de jeu, milieu offensif, adepte d'un jeu en triangle, s'exprimant avec plus d'aisance au sein d'une formation en 5-2-3-1 avec un 9 flottant. Enfin ça c'est plutôt ce que se dirait un aficionados du ballon rond, parce que vous Stéphane, tout à l'heure, vous m'avez quand même demandé si, je cite, elle était bien ma chronique sur Zabou. Alors oui, l'histoire de Zidane est connue. Comme lui en son temps, j'ai donc tenté d'abord de me démarquer en tapant sur Google « Zidane, information cocasse ». Eh bien, ce qui en est sorti, un article titré « Zidane est venu faire du canoë en Lozère ». Véridique, hein, en vacances, Zizou a fait une sortie canoë dans les gorges du Tarn en Lozère, on s'en fout. Alors, plutôt que d'essayer d'épater la galerie en vous racontant tout ce que vous ne saviez pas sur Zidane, j'ai choisi de vous raconter tout ce que vous devriez savoir. Zizou, c'est évidemment le plus grand footballeur français de tous les temps, un palmarès deux fois plus lourd que Michel Platini, pas que le palmarès hein, de Michel Platini, que Michel Platini tout court, ce qui est encore plus impressionnant Stéphane. Notre roi a été élu Ballon d'Or, meilleur joueur européen de l'histoire, après avoir remporté la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des Nations et la Coupe du Monde. Le début de ce conte de fées démarre il y a 48 ans dans la cité de la Castellane, à Marseille. Et je ne me prive pas de faire, je fais tellement bien l'accent marseillais que je le fais. Celui qu'on n'appelle pas encore Zizou, mais Yazid, son deuxième prénom, est un enfant timide. Très timide.
Parle plus fort, tu comprends ça? Parle plus fort! Exprime-toi, attends, exprime-toi. Arrête de t'excuser, arrête d'être poli, mais bouge, je sais pas moi, réagis, fais-toi violence, y'a quoi à l'intérieur? Réponds !
Ses profs étaient très inquiets. C'est également un enfant très ordonné, rigueur, voire psychorigidité qu'il conservera plus tard aux grandes dames de publicitaires pressés qui échoueront à réaliser avec lui des pubs dynamiques.
D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, oui. Chaussures. Oui. Puis la jambe droite.
Oui, la jambe droite.
Une gorgée de volume.
Et la jambe symphonique. Allez, on va plus vite, sinon on passe la journée en tournage. Alors aujourd'hui, on appelle ça avoir des tocs. Sa thérapie, lui, il l'a trouvée dans le sport. C'est avec son corps qu'il s'exprimera. Son pied sera son pinceau. Issu d'une famille de 5 enfants, il deviendra lui-même père de 4 fils, enfants issus de son union avec Véronique, qu'il rencontre à l'âge de 17 ans. Dans un milieu footballistique où il est de bon ton d'enchaîner les conquêtes féminines, si possible, s'il y connaît, il est important de signaler qu'après toutes ces années, Zidane est toujours fidèle à Véronique. Enfin, il est toujours marié avec Véronique, en tout cas. Côté foot, Zizou a débuté à l'AS Cannes, s'est bonifié chez les Girondins de Bordeaux, a explosé à la Juventus de Turin, puis deviendra carrément un galactique au Real Madrid. Et le grand public le découvre lors de la victoire de Coupe du Monde en 98, où il marque 2 buts de la tête lors de la finale contre le Brésil. Moment mythique qui arrachera à Thierry Roland cette phrase au moins aussi célèbre que le « Toi aussi mon fils » de César à Brutus.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Alors Stéphane, vous en dites quoi de mon numéro 10? Est-ce que votre Louis X, le hutin, l'a eu sa tronche perruquée affichée en grand sur l'Arc de Triomphe avec écrit « Louis Président » Je ne crois pas, non. Est-ce qu'on a vu votre Louis X sur des culs de bus? Pas plus. Et votre Autodix a-t-il reçu par Chronopost autant de petites culottes que mon Zizou? Rien du tout. En septembre 98, Zidane est fait chevalier de la Légion d'honneur. Auto. Il était chevalier auto? Même pas. Et la success story continue. Euro 2000. Et Zidane, il a marqué. Et les Bleus sont sacrés champions d'Europe. En 2006, pour son dernier mondial, alors qu'il est revenu en équipe de France, sauver la patrie tel Napoléon en 1815, la chanson change subtilement dans les prolongations de la finale contre l'Italie. C'est l'épisode du fameux coup de boule à Materazzi, ce défenseur italien retors, pléonasme, qui aurait susurré à Zizou des mots déplacés évoquant sa sœur afin de le faire sortir de ses gonds. Qu'a-t-il dit exactement? Bah ça, on ne le saura jamais.
Porca puttana.
Oui, non.
Porca
voilà, non. Alors,
puttana.
Oui, non. On ne se lancera pas dans l'exégèse des propos de Materazzi, mais une chose est sûre, il ne lui a pas récité un poème de Pablo Neruda. Exclu sur carton rouge, Zizou laissera les Bleus orphelins pour la fin de la finale qu'ils perdront. Une si fabuleuse carrière pouvait-elle se terminer sur une fausse note? Non, Stéphane. Car non content d'avoir été un immense joueur, Zizou deviendra par la suite un brillant entraîneur, ou ça, eh bien, au Real Madrid. Pour ce faire, il passera d'abord ses diplômes d'entraîneur et peaufinera évidemment sa maîtrise de l'espagnol.
Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Ça, c'était le début, mais il a fait des progrès. Si le règne de Louis X n'a duré que 1 an, 6 mois et 7 jours, Zidane, lui, est entraîneur au Real depuis maintenant bientôt 4 ans. Sa pédagogie et son calme olympien y sont sans doute pour beaucoup.
Passe, donne la balle. Avec le pied, pas avec la main, avec le pied, c'est ça le pied, passe.
Résultat, 3 Ligues des Champions d'affilée, il est même élu meilleur entraîneur du monde en 2017. Bref, Zidane, c'est cet être presque irréel à qui tout réussit, le blond de Gad Elmaleh en chauve. Enfin, sachez-le Stéphane, Zizou n'est pas resté insensible au mercato radio très discuté cette saison. Votre départ d'RTL et votre arrivée sur Europe 1 ne l'ont pas laissé indifférent. Écoutez.
Il est parti par la petite porte. Il avait fait vraiment un formidable boulot. Il a un sacré caractère. Il a un mental fort. Quand tu regardes ses prestations, t'as qu'une envie, c'est de voir s'il peut répéter cette performance avec ton équipe.
C'est exactement ce que je me suis dit. Stéphane, bienvenue. Serez-vous à la hauteur des espoirs de Zizou? Oui. On croise les doigts.
Oui. Merci Mathieu. Bon, c'était à 99,9% vrai.
Oui, c'est vrai.
La chronique où tout est vrai ou presque. À vous de repérer les petites fantaisies, n'est-ce pas, chers amis auditeurs? Alors, chaque jour, Mathieu, vous nous brosserez ainsi le portrait d'une personnalité qui a marqué l'histoire récente. Et qui sait, parmi ces personnalités, certaines accepteront peut-être de venir nous rendre visite en studio. Sauf évidemment celles qui auront été attaquées par vous en diffamation.
Ça, c'est possible. C'est une éventualité à laquelle le service juridique d'Europe 1 doit se préparer. Heureusement, c'est sur une note plus consensuelle que se terminera chaque après-midi notre émission.
Europe 1.
Grâce à vous, Stéphane, on va se coucher moins bête. Vous allez nous permettre de briller dans les dîners en décryptant des expressions qu'on utilise quotidiennement, souvent sans savoir d'où elles viennent.
Oui, Mathieu, grâce à cette nouvelle rubrique, vous allez pouvoir épater la galerie.
Ça doit venir de Versailles, quand Louis XIV faisait l'hélicoptère dans la galerie des glaces pour amuser la Pompadour.
Non, ça vient du jeu de paume.
Ah, merde.
Non, Mathieu, vous allez vraiment vous coucher moins bête, même si dans votre cas, bon, ce sera un miracle, mais on peut toujours rêver.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Avec Stéphane Bern, on a bien des passions en commun. Proust, Jean Ferrat, le tarama aux truffes, le point de croix naturiste. Mais de toutes ces passions, il en est une plus obsédante, l'histoire.
Et oui, Mathieu. Et chaque après-midi, désormais, on partage cette passion avec vous. Historiquement vôtre, c'est chaque jour le récit rieur mais véridique hein, de trois personnages qu'a priori tout oppose, mais qui ont en fait énormément en commun. Notre émission du jour était consacrée au numéro 10. Mais l'histoire, c'est pas que le destin des hommes et des femmes, c'est aussi, Mathieu, le destin des mots.
Oui Stéphane, les mots, les expressions ont toute une histoire. La langue de Molière est belle mais complexe. Certains comédiens s'y sont d'ailleurs cassés les dents et leurs spectateurs les oreilles.
Vous êtes diabolique maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis.
Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Et si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi.
Dieu vous entende maîtresse.
Chaque après-midi, vers 6h-10, en guise de bouquet final de cette émission, Stéphane Bern, vous nous faites voyager à travers la langue française à la découverte de ces expressions qu'on utilise au quotidien sans forcément savoir d'où elles viennent. Et pour cette première, vous allez, une fois de plus Stéphane, nous prouver que vous n'avez peur de rien. Vous allez commencer tambour battant.
Oh mais vous avez un sens de l'à-propos, vous, hein, mon cher Mathieu. Oui, mais mes nouveaux collègues d'Europe 1 m'ont tous prévenu. Depuis qu'ils savent que je vais animer à vos côtés historiquement vôtre, ils m'ont dit « Tu vas travailler avec Mathieu Noël, tu vas voir. Il est ultra speed, tu vas devoir mener cette émission de radio tambour battant. » Tambour battant. Mais d'où vient cette
c'est
expression
vrai qu'on utilise, on sait
que vous
pas
utilisez
du tout.
Tous les jours C'est vrai? Eh bien, de l'Ancien Régime, et plus précisément de l'univers militaire. Vous-même, Mathieu Noël, combien d'assauts avez-vous menés tambour battant?
Ça dépend de quel type d'assaut vous parlez.
Combien de territoires conquis avec détermination et énergie? Bon, cela ne nous regarde pas, c'est votre vie privée. Quoi qu'il en soit, c'est au XVIIe siècle, durant les combats d'infanterie, que les soldats pouvaient compter sur des joueurs de tambour pour battre le rythme de leur progression. Avec leurs baguettes frappant avec force sur la peau tendue de leur tambour, ils renforçaient un sentiment de toute puissance, de fierté et d'abnégation absolue. Alors soit, ces joueurs de tambour se positionnaient en deuxième ligne pour donner encore plus de courage aux soldats les plus exposés. Mais les risques étaient grands de mourir tant et si bien que les troupes pouvaient se retrouver sans cadence s'il leur arrivait malheur.
Attendez, je me permets de vous interrompre, Stéphane, vous connaissez bien cette époque-là. Les mecs qui jouaient du tambour là, pour les autres militaires, eux, ils n'étaient pas armés.
Ben non,
ce qui fait qu'ils avançaient, exposés aux balles ennemies, juste en jouant du tambour.
Pour pousser les autres au train.
Mais c'est quand même un petit peu con si la première ligne tombe et que vous vous retrouvez comme un con avec vos baguettes face aux mitraillettes.
Ah ben oui, c'est ça.
C'est foutu.
Alors, bon, à l'époque, si vous voulez, c'était pas des mitraillettes, vous voyez.
Mais non, c'était des baïonnettes.
Voilà.
C'est en net aussi.
Il y a moins de risques.
Attention.
Oui, c'est en net. Et ils se mettaient derrière tout le monde, en dernière ligne, pour forcer les plus lents à avancer coûte que coûte. Dans tous les cas, la charge gagnait en exaltation et il en fallait, évidemment. Et il y a d'autres expressions comme tambour battant qui viennent d'ailleurs des militaires durant les assauts. Par exemple, l'expression qu'on utilise moins d'ailleurs, mèche allumée, balle en bouche.
Je l'ai entendu une fois, mais c'était une soirée un peu particulière.
Pour dire qu'on est prêt. Non, ça veut dire qu'on est prêt à en découdre et qu'on utilise rarement. Hein. Non, vraiment, je vous le confesse. Ou alors, une expression qu'on utilise, par exemple, quand vous quittez. Moi, j'ai quitté la radio d'avant avec armes et bagages.
Ah oui.
Bon.
On les embrasse.
Et ça fait directement référence au paquetage des soldats de l'infanterie. Et oui, voilà, cette chronique s'achève. Permettez-moi de terminer sans tambour ni trompette.
Ça, c'est pareil, sans tambour ni trompette, alors.
Oui, alors justement, je vais vous... Non, c'est trop tard.
Non, là, on n'a plus le temps, Stéphane, je vous fais signe. C'est fini.
Non, mais je voulais éclairer votre lanterne.
Une autre fois.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Cette première édition d'Historiquement Vôtre s'achève avec Mathieu Noël. On a déjà hâte de vous retrouver demain pour 2 heures d'histoire décontractée où le rire, le dispute à une certaine érudition, on peut le dire.
Et l'éloquence au savoir, visiblement. Stéphane, votre faculté à jongler avec les mots me fascine. Connaissez-vous déjà le programme qui nous attend demain?
Oui, absolument. D'abord parce que nous l'avons préparé. Nous allons vous dévoiler le lien entre le pharaon Ramsès II, la reine Élisabeth d'Angleterre, Élisabeth II, et Michel Drucker, premier. Oui, là.
Moi, je sais le lien.
Ah oui ? Ouais. Mais ne dites rien.
Ils n'ont pas tous leur vessie d'origine.
Parce que si on avait dit Jean-Paul, ça aurait fait la famille 2.
Ah oui, c'est vrai, on aurait pu faire ça.
On aurait pu faire la famille 2.
Il est encore temps de changer. Ah non, on fait signe que non, Régis. On reste sur Michel Drucker. Rendez-vous donc demain 16h pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. Et pour conclure cette toute première émission, je laisse évidemment le mot de la fin à mon maître, mon mentor. Stéphane, un dernier mot, une pensée ?
La vie m'a appris qu'il y a 2 choses dont on peut très bien se passer. La présidence de la République et la prostate.
Pas mieux.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.